Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec des gens extraordinaires. Nous sommes avec Jérémy. Jérémy, ça va la pêche?
Salut, ouais.
Nous sommes avec Stéphane. Stéphane, ça va?
Et salut, ça va, ouais.
Nous sommes avec Mathieu. Mathieu, ça va?
Oui, très très bien.
Alors, je présente rapidement parce que souvent j'ai des petites réflexions. Alors, Jérémy Klein, ludothécaire de Plouer-sur-Rance,
voilà,
célèbre de par le monde maintenant. Ah ouais. Stéphane Bagnier, donc.
Un rôliste, c'est tout, tranquille.
Tu participes à quelques associations rôlistes d'envergure, comme le GROC par exemple.
Juju.
Ah, quand même, monsieur. Et puis, créateur de jeux, peut-être un jour en puissance. Peut-être un jour playtesté sur la cellule. Qui sait. Et puis Mathieu Mine, l'un des deux auteurs du célèbre, maintenant, L'horloge du diable, non pas l'horloge mécanique, hein. L'horloge du diable, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est toi, Mathieu, qui vient avec ce sujet de podcast à la cellule, nous parler de la rythmique.
C'est ça, alors surtout la structure, donc je voulais en parler avec vous et amener ce sujet-là. La structure et ce que ça implique, et notamment le rythme et la tension dans une partie.
Je peux commencer par une anecdote.
Oui.
Un jour, j'ai fait une partie de Vademecum en convention. C'était à Eclipse. Quand je suis revenu chez moi du week-end, il y avait un mail d'un gars qui avait décrit minute par minute la partie de Vademecum. C'est-à-dire qu'il avait dit à telle heure, tu disais ça, telle minute, tu disais ça. Ce gars, c'est Mathieu Mine. Il est autour de cette table.
Ouais. Okay.
Le taré. Je
il
suis
est plus
ce
dingue
type
que moi.
Est un taré. Et quand il m'a envoyé ce mail, je me suis rendu compte qu'en fait, dans les jeux de société et dans les règles de jeux de société que je connaissais modernes, il y avait toujours, un, le temps de jeu qui était indiqué sur la boîte, deux, que le temps de préparation et des différents tours de la partie était très souvent mis entre parenthèses dans la règle, à côté du titre correspondant à cette phase de jeu. Et je me suis dit, mais en fait, c'est intéressant, cette vision du jeu de rôle comme jeu de société normal et avec des règles normales et dans lequel on met aussi les temps de préparation et tout. Je n'y avais jamais pensé.
Bah, c'est normal, parce qu'en jeu de rôle, il y a des tas de jeux dans lesquels il faudrait écrire temps de préparation, 4 mois.
Ah oui, ça perdrait en crédibilité, c'est un fait. Alors pourquoi toi, tu es aussi sensible à la structure, Mathieu? Parce que c'est clair, enfin là, on voit, t'es quelqu'un qui de base est soucieux de ça, du rythme, du temps de jeu. Pourquoi?
Alors
attends, parce que t'as prévu un plan là? Je te vois avec un polycopier.
Ouais.
Les plans à la cellule.
Un semblant de plan.
Excuse-moi, parce que du coup, tu avais peut-être envie d'aborder des
ah bah, c'est comme tu veux. Moi,
comme
le pourquoi, c'était
ton plan, du coup.
C'était plus mon deuxième point. Mais ça sera pas un grand plan. Enfin, je vais laisser tout le monde intervenir, évidemment.
Bah, j'espère.
Et dévoyer ce plan comme c'en est la coutume, visiblement.
Okay,
je voulais d'abord dire ce qu'était la structure, tout d'abord avant de revenir au pourquoi. Et ce que je définis moi comme la structure, en gros, ça va être l'architecture d'une partie. En fait, en gros, grosso modo, ça va être l'espace qui va structurer en fait les différents moments du scénario. Ça commence forcément avec un début, ça finit forcément avec une fin, et à partir de ce moment-là, on a un milieu, on a un trois quarts, on a un quart, et ainsi de suite. Pour moi, ça va être réellement ça, et on va pouvoir rythmer ces jalons en fait, tout simplement, avec la narration, avec la mécanique, avec des courbes de tension et ainsi de suite. Grosso modo, pour moi, la structure, je vais faire une analogie. En fait, je vais faire même deux analogies. Moi, je vois ça un petit peu comme la grammaire de la langue française. En gros, ça veut dire que si vous me donnez la grammaire, enfin de la langue française ou de n'importe quelle langue d'ailleurs, si vous me donnez la grammaire, je vais être capable de faire une phrase, quoi, tout simplement. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça sera de la poésie, mais par contre, je vais être compris à minima par tout le monde, puisque je connais les
codes.
Exactement. Oui. Je sais qu'à certains moments, on doit inverser le sujet et le verbe si on veut faire une interrogation, ainsi de suite. Je sais que ça commence par une majuscule, que ça finit par un point. Et il y a une autre analogie qu'on pourrait faire, c'est avec l'improvisation en musique, et ben en fait, en gros, quelqu'un qui va improviser, il va connaître la structure musicale en fait du morceau sur lequel il est en train d'improviser. Il sait qu'il joue en telle tonalité, il sait combien il y a de dièses et de bémols, et il sait donc les touches qu'il a le droit de jouer. Mais c'est pas parce qu'il connaît les touches qu'il a le droit de jouer qu'il va faire un solo qui va vraiment nous impressionner. Et qui va nous marquer, mais par contre, c'est parce qu'il connaît ces touches-là qu'en fait, on te dira « Ouais, ce mec-là, il joue pas faux. Ça pourrait plus me transporter, mais il joue pas faux. » Donc en gros, pour moi, et donc pour répondre à ta question de pourquoi la structure, c'est ouais. Pour pouvoir faire en fait toujours des parties qui sont à minima bonnes, en fait, on va
pour
dire, entre guillemets.
Juste, hein.
Ouais, voilà, c'est ça pour essayer d'avoir un garde-fou. Tout D'accord. simplement. Pour moi, je le vois de cette manière-là. Et puis bon, voilà, c'est vraiment ma vision. Et c'était avec ça, avec ce début de podcast, avec cette idée-là que je suis venu.
Donc je comparerais ça un petit peu finalement à la méthodologie dans les dissertations. C'est-à-dire que.
Ouais, voilà, par exemple.
Pour rendre une dissertation, on va dire, intéressante, on va utiliser une méthodologie standard. Une grille dans laquelle on va juste finalement avoir à remplir des mots, enfin à mettre des mots dans la grille. Et si on respecte la méthodo, la dissertation aura forcément un intérêt. Et là, tu es en train de dire, c'est un peu pareil
pour
une partie.
Elle a 10 sur 20, quoi. Mais bon, ça va te donner un 10 sur 20, mais on aimerait bien avoir le 15, quoi. Mais en tout cas, ça sera au moins un 10, ça sera pas un 5.
D'accord, ouais, c'est ça, exactement.
Ce qui est en dehors de ça, Stéphane. C'est du lyrisme, c'est des choses qui vont te toucher d'un point de vue émotionnel, où il va se passer des choses comme ça, mais en fait, tu considères que tu as au moins une partie de ce qui se passe dans une session de jeu qui repose sur le fait que la structure déjà soit bien écrite, quoi, c'est ça ?
C'est ça, en fait, c'est pas forcément qu'elle soit écrite, parce qu'en fait, on peut toujours... lorsque je dis ça, je m'adresse autant à des gens... Alors moi, je prépare énormément mes scénarios et je suis vraiment en mode toboggan, on va dire. Mais par contre, j'assiste aussi à ce genre de choses en improvisation.
Oui.
Et donc, en fait, en gros, ça va permettre à quelqu'un même qui improvise de retomber effectivement sur des choses qu'il connaît, sur certaines structures et de faire en sorte que, en gros, effectivement, la partie ne sera pas vécue comme un échec profond de la part des joueurs, à minima, qu'ils se disent « Bon, on a joué à quelque chose d'intéressant ». Après, moi, ça ne m'a pas transporté, mais au moins, en fait, on a respecté
la structure.
Ouais, on ne sait pas. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de sensation lors de certains jeux de rôle où il y a des scènes, tout simplement, qui s'éternisent et c'est mou et on se dit mais qu'est-ce que je fais là ? Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai joué quelques parties en convention. Et voilà quoi, le MJ qui était là, il avait improvisé le truc juste avant et improvisé effectivement sans structure. Il y avait, enfin, c'est pas possible. En fait, je paye à ce moment-là pour être en convention et on va me sortir un scénario qui est hyper mou. Et en plus de ça, j'ai même pas le droit d'en sortir à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai essayé tout simplement par tous les moyens de mourir. Et alors j'étais un garde du corps, donc j'ai inventé en quelque sorte l'altruisme égoïste. En gros, j'ai essayé de me jeter devant la personne que j'étais en train de protéger pour essayer de mourir, pour pouvoir partir de la partie en fait, tout simplement. D'accord. Et ça, c'est pour éviter de retomber sur ce genre de choses.
Donc toi, une des thèses que tu défends en tant qu'auteur de jeu de rôle, c'est de dire si un auteur de jeu de rôle prévoit la structure dans la base de son jeu, dans les règles de son jeu, on est sûr à minima que la partie sera correcte. On ne dit pas qu'elle sera bonne, on ne dit pas qu'elle sera très bonne, mais au moins elle sera correcte.
C'est ça, exactement. Avec, évidemment, et on verra par la suite, avec quand même des réserves malgré tout. Mais oui, ouais, je pense effectivement que quelqu'un qui est déjà en train d'improviser ou de créer avec une structure, et que ça soit donc une structure narrative ou alors avec une structure vis-à-vis des règles, ou de la mécanique, et ben effectivement ça va déjà produire quelque chose d'un minima en fait correct effectivement.
Stéphane,
je trouve très intéressant ton analogie avec la grammaire. Une grammaire correcte en fait ne garantit pas du tout que le texte soit intéressant. Au moins il sera lisible.
C'est ça. Tout le monde va me comprendre en fait.
On a ça aussi en logique formelle. En logique formelle, donc il existe des règles de composition des propositions de logique. Enfin, on ne peut pas appeler ça des propositions, mais parce que c'est justement la logique propositionnelle, donc c'est la logique des propositions, mais disons des expressions logiques. Et on appelle ça des EBE, expressions bien formées. Enfin, bien. C'est EBE,
EBF.
Pour expression. EBF.
Si c'est bien formé.
Si c'est, ouais, ça doit être, c'est EBF ou EBE, je ne sais plus. EBF, je crois que c'est
bien
expression
exprimé.
Bien formée. Ou bien écrite, ouais.
Bien
c'est-à-dire
écrite.
logiques dans lesquelles il n'y a pas enfin, des phrases dans lesquelles il n'y a pas d'erreur de syntaxe.
Alors je pressens en fait qu'on va interroger pas mal dans cette petite discussion le fait de dire et le rythme c'est qui ? C'est l'auteur du jeu, c'est le maître de jeu, c'est les joueurs. En tout cas pour des jeux de rôle qui sont avec ce dispositif classique.
Oui,
qui a la putain de responsabilité de ça ?
Effectivement.
On va parler dans ce podcast... du dispositif classique, essentiellement.
Oui, c'est ça, exactement. Mais même, en fait, je suis en train d'y réfléchir là, mais même de toute manière, même pour, par exemple, un jeu qui est typiquement en narration partagée, alors je veux dire celles qui sont vraiment poussées au maximum.
On appelle ça des jeux anarchistes, nous, maintenant.
Ah,
parce que, comme on sait que tous les jeux partagent la narration, même le jeu de rôle classique partage la narration, il le fait de façon traditionnelle.
D'accord.
Mais il la partage, c'est l'idée de Grégory Pogorzelski que tout jeu partage la narration. Une idée de la forge. Hein,
oui.
Donc du coup, maintenant, on a tendance à dire des jeux anarchistes ou anarchiques pour dire, en gros, ça ne respecte pas le canon traditionnel.
Mmh,
c'est un autre format.
Ce qui est une nouvelle dénomination qui permet d'être encore plus confus.
Ben non, parce que c'est juste que c'est des jeux qui s'opposent à la forme traditionnelle, c'est ça que ça veut dire.
Ouais.
Voilà. On va dire des jeux non traditionnels, tu vois. Parce que dire jeux à autorité partagée.
Il nous manque des mots, donc c'est bien d'essayer, quoi.
On essaye. Sans jargonner.
Et donc même finalement pour ce type de jeu, je pense que le fait d'amener une structure pourra tout simplement faire en sorte que... Après, il faudrait y réfléchir un petit peu plus, mais je pense que ça pourrait apporter peut-être un mieux. Alors après, bon, évidemment, c'est juste une réflexion.
Moi, j'ai vraiment besoin d'exemples à ce stade du podcast.
Alors,
j'ai
par
du mal
exemple,
à voir
est-ce que tu as déjà joué
c'est une structure, vraiment.
Alors, par exemple, sur les jeux anarchistes... Alors, déjà, c'est quoi une structure ? Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Déjà, ça commence par un début. Il y a forcément un milieu et une fin. À partir de ce moment-là, dès que tu as commencé à poser ça sur ton scénario, sur ta séance, à partir du moment où tu vas commencer à faire coïncider le scénario et, en plus de ça, la séance de jeu... tu vas commencer à voir naître en fait tout simplement des contraintes de temps. Moi, par exemple, j'ai décidé que ma partie, elle va se jouer en 4 heures, par exemple. Donc là, je parle pour un one shot, mais on pourrait très bien parler pour une campagne. J'expliquerai après pour une campagne, pourquoi pas. Donc moi, je dis ma partie, elle se déroule en 4 heures. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en temps IRL, en temps dans la vie de tous les jours, ça veut dire qu'à la moitié de ma partie, dans la narration, je devrais être à 2 heures, si elle dure 4 heures, tout simplement. Qu'à partir du moment où je sais que je suis à 2 heures, lorsque je suis en train de faire jouer mes joueurs, et que je vois que je ne suis pas à la moitié de mon scénario, je sais que je vais devoir presser. Et donc là, on va forcément se...
Donc là, tu es en train de dire, quand on a une structure, quand la structure est clairement établie dès le départ, dans le contrat social, avant même le début de la partie... À tout moment, un joueur, en faisant référence à ses structures, est capable de déterminer si on est au milieu du scénario, si on est à la fin du scénario, si on est au début du scénario et compagnie.
Voilà, c'est ça. Surtout en termes de MJ. Donc là, on est vraiment, par contre, là, je parle vraiment pour une partie vraiment traditionnelle, voire même un peu dirigiste. Oui, effectivement, c'est ça. Et de savoir de jouer avec ces structures et de se dire et de corréler ça. Donc, c'est-à-dire que ça va être un outil de gestion pour se dire est-ce que je dois accélérer à ce moment-là ? Il me reste 4 heures, il me reste plus que 2 heures. J'ai pas fait la moitié de mon scénario, alors que normalement je devrais être au milieu. J'accélère. Donc ça, déjà dans un premier temps, ça va être un outil de gestion à l'intérieur de la partie. Ou alors au contraire, je suis trop en avance, je vais ralentir le rythme. Donc là vraiment ça va être de cette manière là mais
peut-être que ça devrait mais en fait il y a l'état d'exemple où enfin moi j'ai vécu plein de sessions de jeux dans lequel en fait on ne savait pas si on terminerait la partie et que la partie était découpée allait être découpée en une ou plusieurs sessions au fur et à mesure qu'on allait découvrir en réalité à quelle vitesse on allait jouer et du coup en fait cette espèce de réponse entre le temps de jeu le temps de la session de jeu entre les joueurs et puis le temps mis pour clore un arc qui est une partie en fait on n'en sait rien, on avance et puis on verra bien.
Alors, justement l'argument de Mathieu, si je puis me permettre et après je lui laisse la parole, c'est de dire que s'il n'y a pas de structure on se retrouve dans un cas de figure où on ne sait pas et le cas où on ne sait pas il y a de fortes chances qu'on va se faire chier en fait. Parce qu'on va pas arriver au...
En grosso modo, ouais, c'est un peu ouais. ça. Effectivement.
C'est carrément plus risqué, ouais.
Et par contre, effectivement, en plus de ça, le terme de la structure, donc là, moi, je l'ai utilisé, par exemple, pour un one-shot de 4 heures, mais tu peux vraiment l'utiliser pour plusieurs séances. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de créer une partie de jeu de rôle dans Vampire. Je sais qu'il y a 5 séances. Je sais absolument à partir de quelle séance, en fait, ça va s'accélérer. Je sais à partir déjà. Cela dit... Ça, c'est qu'une structure. Après, hein, c'est pas marqué noir sur blanc. Je sais déjà plus ou moins quand même que, par exemple, à ma troisième partie, j'ai déjà passé, et c'est une évidence, j'ai déjà passé la moitié de ma campagne. Donc, ça veut dire que si j'ai pas fait toutes les révélations, ce genre de choses-là, etc., il va falloir vraiment que je m'y mette. Cela dit, évidemment, les joueurs vont pouvoir trouver leur place et jouer à travers ces jalons, en fait, on va dire. Là, c'est vraiment en termes de gestion, en fait.
Alors, je sais pas quel est votre sentiment, mais j'ai l'impression qu'en fait, que c'est pas forcément une pratique prépondérante.
Ah oui, carrément.
D'avoir, de penser, de penser ce qu'on appelle une campagne, c'est-à-dire un ensemble de parties qui vont faire un grand arc, comme étant quelque chose de fini. Et en fait, moi, j'ai beaucoup joué et j'ai beaucoup vécu des choses dans lesquelles,
dans le jeu de rôle traditionnel.
Dans le jeu de rôle traditionnel, dans des jeux, dans du jeu en campagne, dans lequel finalement on ne savait pas bien où était où serait la fin. Et puis bon, voilà, au bout d'un moment, il y a des trucs qui semblaient se compléter et nous amener à une fin.
Et ben voilà.
Sera-t-elle dans 3 sessions ou dans 30 après et tout, on ne savait pas vraiment.
Sauf que, voilà, moi, c'est le genre de constat exactement que je dresse aussi. Alors après, je ne sais pas s'il est vrai. Moi, toi, tu m'apportes ton témoignage et moi, c'est vis-à-vis de mon expérience personnelle. Mais effectivement, moi j'ai constaté que effectivement les parties n'avaient ni. Enfin, elles avaient forcément un début, mais elles n'avaient pas forcément de fin. Et c'est à partir de ce moment-là, tout simplement, où on n'avait pas une structure établie, donc, et où on n'avait pas de fin, c'est à partir de ce moment-là où le scénario, où l'histoire, en fait, tout simplement, ne me plaît plus. En fait, je trouve que ça peut traîner en longueur, ça peut au contraire accélérer, et je trouve que c'est moins intéressant. En plus de ça, on peut amener, en fait, tout simplement plus d'éléments de propos, en fait, on va dire, dans quelque chose qui est fini. Et en fait, le fait que ça soit fini, ça n'empêche pas de pouvoir faire plusieurs bouts à travers des campagnes, par exemple. Donc moi, pour reprendre,
t'es en train de remettre en question le caractère infini de la.
Voilà, moi j'aime moins ça, effectivement. Effectivement, c'est quelque chose. En fait, le fait qu'il y ait un caractère qui est infini empêche pour moi le fait qu'il y ait une structure et ça rend la chose, en fait, moins rythmée, moins l'histoire, en fait, peut-être un peu plus molle et avec des passages, en fait, tout simplement, qui vont se traîner.
Donc, ça c'est dingue parce que
ça c'est. Attention, hein, je dis pas forcément que c'est comme ça.
Moi, je trouve qu'en effet, ça me pose une question là, de se dire, mais est-ce que même cette idée d'infini fait arrêter les joueurs pour de bon au jeu de rôle en disant, ouais, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait en jeu de rôle. Vu que c'est infini, de toute façon, je vais pas perdre mon temps non plus pour ça. Et donc, du coup, faut que je passe à autre chose, quoi. Et du coup, jeu de rôle, c'est mort jusqu'à qu'on arrive après à 50 ans en disant, ah, mais c'était quand même sympa ces petits moments-là, jeu de rôle et tout, et hop, on relance. Pour peut-être retomber dans le même piège, je veux dire, c'est infini, hop, on va s'arrêter.
C'est vrai qu'une des raisons, maintenant que tu dis, c'est hyper bourrin ce que vous racontez, les gars, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, ce que tu es en train de dire là, Jérémy, c'est que finalement, peut-être que ce qui a fait la crise du jeu de rôle dans les années 90, c'est peut-être le fait que, comme les jeux étaient infinis, il y a un moment donné où on avait la sensation d'avoir fait le tour, alors que dans le jeu de société, dans lequel... Il est clair que les parties ont un cadre fini, qu'on ne peut pas jouer, rejouer infiniment à un jeu de société, ou en tout cas qu'il a une durée dans le temps, il y a un début, il y a une fin. Et bah, du coup, on est beaucoup plus enclin, quand la partie du jeu de plateau est terminée, à en acheter un autre et éventuellement à faire l'expérience d'un autre jeu. Alors que dans le jeu de rôle où l'expérience est infinie, bah, on n'a pas tout de suite envie d'aller acheter un autre jeu de rôle pour se retaper encore une expérience infinie et compagnie. Jérémy puis Stéphane.
Donc deux petites choses, oui, ça me fait penser au podcast qu'on a eu sur les jeux collaboratifs et coopératifs, où j'avais dit que moi c'était bien d'avoir des jeux avec une fin. Je trouve que c'est important qu'un jeu doit avoir une fin. Pourquoi ? Parce qu'en effet, l'infini, on est perdu, il n'y a pas d'objectif.
Exactement.
S'il n'y a pas d'objectif,
parle dans le micro, toi.
On n'a pas la motivation de se lever le matin pour dire je vais prendre mon épée et tuer tous les gobelins de la mine d'à côté. Parce qu'au bout du compte, c'est même pas un objectif. On dit ouais, je les tue, mais pourquoi ? Je sais pas. Ça serait, en effet, là, pour moi, ça serait un piège du jeu de rôle dans lequel je me suis fait piéger quand j'étais jeune. Et dans lequel je regrette aussi, dès que je commence à faire une campagne, parce que j'en ai commencé là du coup récemment sur certaines choses, on les a pas finies pour X raisons, Et surtout, on a moins l'envie, on trouve moins le temps, parce que au bout d'un moment, on se dit, mais l'objectif, il est dans combien de temps ?
Je viens de comprendre un truc de ouf, Stéphane.
C'est vrai qu'il y a cette propension à faire des campagnes qu'on finit par abandonner au lieu de les clore. J'en ai vécu et j'en ai encore comme ça d'ouvertes. Et je trouve toujours ça vraiment dommage. Et ouais. En fait, je préférerais. Alors, il y a plusieurs choses. Je préférerais vraiment qu'on se dise, ok, on a un arc qui va prendre un certain nombre de sessions, et on va jouer ensemble pendant tout un moment. Et vous inquiétez pas. En fait, on peut réouvrir un arc juste après avec les mêmes personnages dans le même univers pour continuer. Si on a envie de continuer, on n'est pas obligé de se dire c'est fini pour de bon à jamais. Mais simplement. J'ai l'impression que ça a aussi des conséquences sur la manière dont les gens peuvent ressentir et voir les jeux de rôle, parce qu'il y a toujours ce mythe de « oh là, j'ai jeux de rôle, ça prend trop de temps », dit par des gens qui parfois peuvent passer 5 heures de leur journée devant la télévision, ce qui mange un temps vraiment très très conséquent. Ouais. Et en fait, pourquoi pour montrer que ça se prend peut-être trop de temps, parce que puisqu'on n'en voit pas la fin, on a peur que ça prenne trop de temps.
Intéressant. Et enfin, moi, par exemple, quand l'une des motivations pour créer Sens, c'était de proposer. Enfin, je trouvais que quand j'ai créé Sens, une des premières originalités du jeu pour moi, c'était que je disais clairement que c'était un jeu qui avait un début et une fin. Oui. Et très souvent, quand je fais la promotion de Sens sur les conventions, c'est une des premières choses que je dis. Je dis, c'est un jeu à secret. Dedans, il y a entre 24 à 36 scénarios. Il y a un début, il y a une fin. Quand vous commencez, vous savez rien. Quand vous finissez, vous savez tout. Et là, je suis sûr qu'il y a des gens qui m'entendent dire ça et répéter ça et qui m'ont déjà entendu dire ça, parce que c'est exactement comme ça que je prends mon jeu. Et j'avais jamais fait le rapprochement avec ça. Je voudrais juste ajouter quelque chose avant de te repasser la parole, Mathieu.
Oui, oui, oui.
Finalement, ce que vous êtes en train de dire là, c'est qu'un jeu de rôle sans fin, un jeu sans fin, c'est un jeu sans finalité.
Exactement.
Donc un jeu sans finalité, c'est forcément un jeu sans propos.
Enfin,
parce que qu'est-ce que c'est que la finalité, finalement ? Qu'est-ce qu'on appelle la finalité d'un jeu ? C'est son propos, tu vois. Et donc, on fait rapidement le glissement entre le jeu sans fin et le jeu sans finalité. Parce que si le jeu a un propos, alors, une fois qu'on a fait l'expérience du vide fertile de ce propos, ou une fois qu'on a fait l'expérience de ce propos, eh bien, ma foi, et on a envie de passer à autre chose, quoi. Tu vois ?
Oui, effectivement.
Et
Ça devient un jouet.
Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Ce que font les speedrunners, par exemple, qui se servent.
Ça devient. Oui, ou alors, enfin, ce qu'on fait pour être clair, pour ce qu'on fait quand on fait l'expérience de jouer au Lego et qu'on construit des trucs et on peut toujours reconstruire des choses, ben voilà, on peut continuer à jouer, mais quand on a construit son grand château, on peut le détruire et faire un vaisseau avec, il n'y a pas de problème.
Mais tu vois, il me semble, et là je vais repasser la parole à Mathieu, que dire qu'un jeu doit avoir une fin, donc une finalité, donc un propos pour vous intéresser, et dire qu'un jeu doit avoir une structure, c'est deux choses très différentes, je trouve. Parce que c'est pas parce qu'une partie a une fin, qu'une campagne a une fin, etc., que forcément il y a une structure. Je sais pas comment tu fais le lien, toi, Mathieu.
Pour reprendre...
Il y a un début, il y a une fin, c'est sûr, mais entre le début et la fin, est-ce qu'il y a une structure ?
Ouais, effectivement, il y a. Il y en a une. Enfin, en tout cas, on peut en faire. De toute façon, une partie, même quand elle n'est finalement pas structurée, même quand on n'y a pas pensé, bah, il y a malgré tout
une structure qui émerge.
Ouais, il y en a une. Et
le veuille ou non, on fait émerger une structure.
En fait, oui, effectivement, il y aura forcément des passages obligatoires, Mathieu. Même si la fin se trouve... vraiment très 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 loin. Après, c'est, on va dire, on va tendre vers l'infini ou ce genre de choses, bref, mais
j'ai plein de trucs à dire, mais vas-y
mais oui, tout ça pour dire que donc moi, pour moi, une structure, une partie qui a une structure et donc qui a une fin, elle pourra effectivement développer un propos, mais elle pourra aussi développer soit un propos soit une intention. En fait, on n'est pas obligé de vouloir dire quelque chose à travers une partie, mais par contre de vouloir faire ressentir quelque chose aux joueurs. Par exemple, je peux faire une partie tout simplement basée sur la peur. J'ai fait une partie basée sur la peur, je voulais faire ressentir la peur à mes joueurs. Elle n'a pas de propos en tant que tel, juste le fait de vouloir plonger mes joueurs dans cet état-là. Et pourtant, je vais bien utiliser une structure, ainsi de suite.
C'est intéressant. Distinction entre le propos et l'intention.
C'est quelque chose dont on sort grandi. C'est quelque chose qu'on a ressenti, qui était intéressant.
Le propos, est-ce que je comprends la distinction qu'il fait, c'est que le propos, c'est une expression de quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, mais c'est quelque chose qu'on essaye de dire à travers un jeu. Mais c'est une proposition, propos, proposition, tu vois. Alors que l'intention, ça peut être juste de transmettre une émotion pour
c'est
le
ça.
Coup.
Alors pour okay. moi, ouais, alors le propos, c'est vraiment, moi, mais ça va même plus que ça. Moi, c'est vraiment chez moi lorsque je fais mes parties, c'est la proposition, c'est par exemple, on a un scénario sur la vitre brisée. Le propos, c'est de faire passer la théorie de la vitre brisée, donc qui a amené la tolérance zéro. Donc voilà, ça, c'est clair et net. Vous allez jouer à la fin de la partie, vous saurez intuitivement ce qu'est le propos de la vitre brisée. Voilà, ça, c'est mon propos. Donc là, celui-là, il est vraiment très, très politique. Une intention, c'est effectivement la sensation que je vais essayer de faire émerger chez vous, de la peur, par exemple, ou du dégoût. Au contraire, je veux que vous jouiez une romance. Il n'y a pas un réel propos derrière ça, mais c'est marrant de jouer une romance, par
en
exemple.
Fait, c'est ce que j'appelais en sortir grandi, parce que tu as appris quelque chose. En l'occurrence, oui. Là, c'est un concept que tu veux inculquer. Et de l'autre côté, en fait, c'est effectivement avoir ressenti des choses.
Une expérience.
C'est plus une expérience.
Ouais, mais on ressort grandi aussi d'une expérience. Mais... En expérimentant des choses, tu vois, on apprend.
Et les deux peuvent s'associer. Ouais.
Oui. Oui.
Oh, j'ai rêvé. Oh, la voix de ouf, qu'est-ce qui se passe? J'ai une foule de cacahuètes de M&M. Oui.
Les deux.
Donc désolé, ça fait une voix bizarre.
Une
les deux propos et intentions peuvent être associés, on est d'accord.
Oui, mais pas. Alors moi, en tout cas, mais pour moi, c'est extrêmement dur. Quand je fais un propos, j'arrive pas à faire de l'intention et inversement.
Mais oui. Tu vas pas me dire que t'arrives pas à transmettre un propos
c'est très dur.
Au sein d'un jeu dont la problématique est de faire peur à travers la peur.
À travers c'est la dur. Peur, non.
C'est dur.
Non. Enfin, j'ai pas de propos à travers la peur, quoi. Enfin, je vais créer les conditions. Enfin, pour moi, c'est dur. Après, je dis pas que c'est impossible, mais en tout
c'est
cas, moi, il me faut.
Parce que t'es très fortement concentré sur quelque chose et que du coup, tu.
En tout cas, je priorise.
T'as pas envie d'avoir un deuxième sujet en même temps.
En tout cas, c'est plus dur. Ou alors, ça me prend énormément de temps et c'est vraiment très dur. Cela dit, pour moi, propos et intentions sont pas forcément corrélés à la structure. C'est pas parce qu'il y a une structure, donc voilà, c'est ça. Enfin, soit on aura un propos, soit on aura une intention. Ça va vraiment dépendre du scénario et de ce qu'on a envie de transmettre. Par contre, la structure en tant que telle, elle va réussir tout simplement à faire en sorte que, c'est ça, on a une partie à minima, même s'il n'y a pas de propos, même s'il y a une intention qui est faible ou ce genre de choses, à faire en sorte que tes joueurs s'emmerdent pas autour de la table, quoi, tout simplement. Moi, c'est ça que j'ai envie d'avoir. J'ai envie d'avoir une partie finalement cohérente à la fin de mon jeu où les joueurs ont été pleinement immergés, où ils ont ressenti le plus de choses, où ils se sont questionnés. Je veux qu'ils sortent de la partie en se disant j'ai pas vu le temps passer, quoi. Et ça, je peux l'avoir notamment en construisant ma structure. Cela dit, moi, je le fais de manière vraiment. Je la pose, etc. J'y réfléchis pendant un moment. Je pense qu'en fait, on peut le faire tout simplement en improvisation. Et je pense aussi qu'on peut le faire pour revenir à ce que tu disais sur des jeux de rôle qui sont anarchistes. Et d'ailleurs, même, je préférerais. Moi, j'ai remarqué ça surtout. Alors, par exemple, la dernière fois, je vais reprendre ce podcast-là de Inspector. La narration que vous avez créée, moi, ne me convenait pas, où c'était l'histoire avec un Necronomicon, avec des gens qui le lisaient, puis il y avait des choses de tous les côtés qui apparaissaient. Je pense qu'avec. À la fin, ça donnait une histoire sans queue ni tête, je trouvais. Encore une fois.
Hein,
je parle. Ouais, voilà, c'est ça, c'est subjectif, encore une fois.
Et je pense que si vous aviez
suivi une structure à ce moment-là, en disant il faut impérativement qu'il y ait un rebondissement, là, il faut absolument qu'il y ait quelque chose, peut-être que cette partie-là, en fait, en tout cas, moi, m'aurait plus intéressé.
Attention, mon ami. Attention, mon ami, parce que à force de désirer trop de structure,
oui, on va y venir.
On finit par tomber
dans
le syndrome de la machine à saucisses.
C'est le travers, et j'y viendrai après. Effectivement, il y a des travers à ça, mais alors, pour l'instant, je n'étais pas encore sur ce versant-là.
D'accord.
Il y a d'autres choses. On expliquera,
tiens, ça va faire plaisir à plein de nos auditeurs d'expliquer ce que c'est qu'une machine à saucisses et pourquoi on appelle ça comme ça et pourquoi il y a deux définitions différentes à la cellule de la machine à saucisses et pourquoi ça fait autant de shitstorm. On y reviendra justement quand on va parler du trop de structure.
Justement, et en plus de ça, et ne serait-ce que même pas vis-à-vis de la machine à saucisses, ça pose d'autres problèmes, notamment d'immersion pour le coup, alors que moi, si j'utilise la structure de base, c'est vraiment pour immerger les gens. En fait, pour qu'ils aient la même grammaire que moi. En gros, je vais utiliser une structure qui peut être souvent vue à travers, on va dire, les films, la culture populaire, les séries. Ce qui fait que quand je commence une partie, mes joueurs, ils savent à peu près, ils vont se retrouver sur des choses finalement un peu connues. Ils vont pouvoir jouer après avec le scénario parce parce qu'il y a déjà cette structure qui va les supporter, quoi, tout simplement, qui va supporter en fait dans leur tête ce qui va se passer. Donc voilà, donc moi j'utilise ça, donc c'est ce que j'ai dit pour essayer de garder une cohérence, pour me faire comprendre de mes joueurs, pour que mes joueurs ne soient pas perdus, et pour que ça se déroule bien. Et donc voilà, donc ça me permet ensuite de poser en fait tout simplement mon rythme, de poser mon rythme sur ces différents éléments. Oui.
Justement, j'ai une question, c'est-à-dire est-ce qu'il existe pour toi une structure idéale ?
Alors non, effectivement, ça va vraiment s'adapter. Alors, si je prépare, si je suis dans l'optique de préparer, eh ben ma structure va s'adapter en fait à mon propos ou à mon attention. Mon intention, excuse-moi, de jeu. En fait, en gros, donc là, je vais revenir avant de te répondre au souci de rythme. Donc, je vais poser mon rythme. Je pose mon rythme sur ma structure. Je sais qu'il y a un milieu, je sais qu'il y a un trois quarts, un quart. Là, j'ai décidé, par exemple, à la moitié de mon scénario, ça va être très mou. J'ai décidé de relâcher vraiment la pression à mes joueurs, à la bride, pour que en trois quarts, donc à trois heures de jeu, tout simplement, je leur mets des révélations de
malade, exactement. De fou, quoi. Donc tu là, j'accélère à fond.
Exactement. Donc là, on va avoir une différence.
Tu vas créer du contraste, en fait.
Exactement. Et je vais créer une amplitude qui va être vraiment énorme. Et donc, en gros, là, ça s'accélère pour les joueurs, en fait, tout simplement. Je leur mets de telles révélations, je leur balance tellement de trucs à la tête que, en fait, en gros, je les ai emportés. Je les ai emportés avec moi. Et pendant ce temps-là, ils ne se disent pas, il y a quoi sur Casus No ou ce genre de choses. Enfin, j'irais bien manger à la pizzeria ce soir. Bon, bref, non, ils sont concentrés dessus.
Ils sont en immersion.
Exactement. Ça va me servir. Et donc, la structure, ça dépend de ce que je veux faire. Si tu me dis que tu veux faire des cliffhangers, il faut que ta structure, forcément, ton pic, ton maximum de tension se termine à 4 heures, tout simplement.
Ouais,
donc je vais bouger les choses, en fait, tout simplement. Je vais bouger ma courbe de tension et je vais faire en sorte, par exemple, d'avoir un creux vraiment à 3 heures et après je tabasse.
T'envoies de la godasse.
Ouais, vraiment, pour arriver à 4 heures. Et là, je leur dis à 4 heures, vous aurez la suite la prochaine fois. Donc là, ils sont un peu frustrés. Mais bon, après ça, c'est toi qui as envie de faire surgir ce genre de comportement chez tes joueurs.
Donc en fait, ce que tu nous dis là, c'est la structure, c'est une gamme, une nouvelle gamme sur mon clavier d'auteur de jeux de rôle.
Ouais, c'est ça.
Je vais pouvoir.
Mais pas que d'auteur, en fait, de MJ, et c'est ce que je disais. Enfin, ça c'est applicable même pendant de l'improvisation. On peut corréler même à la moitié d'une. Même quand on improvise, on sait qu'on est à la moitié d'une séance, quoi, en fait. On sait qu'on doit terminer à 23h à cause du RER. Et
c'est une des questions que je voulais te poser aussi, c'est où s'applique la structure ? Est-ce qu'elle s'applique à une partie ? Est-ce qu'elle s'applique à une campagne ? Est-ce qu'elle peut s'appliquer au jeu d'un joueur particulier ?
Ça veut dire quoi exactement ?
Tu vois, par exemple, si tu prends les articles d'Eugénie Bidet, qui fait donc des articles sur Je ne suis pas MJ,
mais,
et donc qui présente la position en fait, du joueur autour de la partie et qui explique comment elle prend les choses émotionnellement, comment elle s'exerce, comment elle s'entraîne, et puis les conditions un petit peu dans lesquelles elle se sent bien dans les parties, et inversement les conditions qui... Est-ce que tu dirais qu'on peut aussi structurer des jeux de joueurs ? C'est-à-dire qu'on peut aussi amender dans une règle, dire à un joueur, lui mettre avec sa fiche de personnage, ici, dans une heure, tu révéleras ceci, dans deux heures, tu révéleras cela, dans trois heures, etc. Est-ce que tu penses que... structure joueur, partie, jeu, campagne...
On va rejoindre.
Tout peut être structuré, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, mais.
De quelle structure tu
parles ? C'est contre-productif à certains moments.
Ah bon ?
Et ouais. Et donc, effectivement, en fait, on ne peut pas dire au joueur de structurer son jeu parce que tout simplement, en fait, il ne sera plus immergé vu qu'il sait qu'il va devoir faire quelque chose à 3 heures, ainsi de suite. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est fichu.
Théâtre,
c'est fichu.
C'est plus du jeu de rôle. Il y a un moment donné où ça devient du théâtre. C'est-à-dire que trop de structure, c'est presque.
Exactement.
Tu codes les mots même. Donc, qui doivent sortir de ta bouche. C'est ça. Ça devient donc un livret de théâtre.
Presque. Là, t'en viens effectivement aux désavantages. Il y a des désavantages à la structure, effectivement. Alors, on peut en parler, oui.
C'est marrant parce que sur le jeu du joueur, je vois deux contre-exemples qui sont forts. Le premier, en fait, c'est des espèces de bangs scriptés parce qu'ils sont dans la fiche du personnage et qu'en fait, tu sais qu'à un moment donné, le joueur va révéler ceci parce que il se rend compte que c'est le moment où il faut le faire. Et là, en fait, t'as un événement qui est structuré dans le temps. Mais en fait, effectivement, en fait, si tu n'as plus que ça à jouer, si tout ce que tu fais n'est plus que faire ça, en fait, bah, t'es en train de jouer comme... Enfin, t'es peut-être parti à jouer comme au théâtre, mais plus tellement comme au jeu de rôle. Ouais. Mais il y a quand même ça en partie. Et puis après, il y a une autre partie, en fait, sur la structure de ce que font les joueurs. Il y a structurer le temps de parole et l'attention des uns des autres et pas partir, en fait. C'est vachement facile on a un personnage qui est très fort en charisme et qui a pour caractéristique d'être solaire et de parler tout le temps, de gonfler tous les autres.
C'est ma question, Stéphane. De quelle structure on parle ? Ouais. C'est-à-dire, on parle de quelle structure ? De quelle structure, Mathieu, tu avais envie de nous parler là ? Est-ce que c'est pas la structure narrative, finalement ? Moi, j'ai l'impression que c'est ça, la structure de la fiction. Alors, tu vois, la structure de la construction du contenu fictionnel malléable, c'est cette structure-là dont tu es en train de parler.
Mais pas que. Parce que, effectivement, on peut penser aussi à la structure d'un point de vue mécanique. Mais là, on va toucher effectivement aussi aux limites. Et justement, on parlait par exemple donc, de ces jeux anarchistes où je te disais, je pense que les parties pourraient gagner à avoir une structure. Alors, par exemple, moi, j'ai joué à Montségur, qui est structuré, qui est un jeu donc, de rôle, donc, on va dire anarchiste, hein, je remploie tes termes, et dans lesquels, en fait, on a plusieurs phases à laquelle on parle, et donc on arrive à bien structurer, en fait, tout simplement un récit, et on n'a pas trop n'importe quoi qui arrive, ce qui fait qu'à la fin, eh ben, on a quelque chose de plutôt cohérent. Et je trouve effectivement que c'est vraiment un plus. Je pense que de la même manière, donc, on peut structurer à peu près... je pense qu'on peut structurer à peu près toutes les parties, découper.
Moi, j'ai d'autres exemples de jeux structurés comme ça, Miles Christie, dans Miles Christie, on joue à la fin de chaque séance, on joue donc l'équivalent d'un confessionnal.
Alors ça,
chacun passe un jugement, en fait, chacun passe en jugement. Dans 3-16 aussi, traduit par le 7e cercle.
Voilà, on est exactement dans... le fait que la fiction est directement structurée par l'apport des règles, tout ce qui va être en phase. Alors par exemple, je vais prendre mon jeu, mais effectivement c'est structuré en termes de scènes, tout simplement. Donc on va faire des scènes et il y a des mécaniques de jeu qui invitent à ça. Donc j'ai parlé déjà de Lady Blackbird, mais je crois que c'était en préparation du podcast. Ouais. Mais Lady Blackbird utilise une résolution de scène et donc en tant que telle, le jeu va nous inviter tout simplement à faire des scènes et donc à structurer notre narration. Il y aura des points de passage, ainsi de suite. Et donc là, on voit bien que la narration, c'est pas la narration en tant que telle qui va structurer la partie, mais que les règles vont structurer, au contraire, la narration. En fait, c'est les deux. On peut vraiment parler des deux choses.
Ok.
Le jeu en scène, en fait. Le jeu en scène ou le jeu en session pour des jeux comme
attention à ton micro
Florenza,
Stéphane
pour des jeux comme In Florenza par exemple merci ou je sais pas les petites choses oubliées sont des jeux qui encodent dans leurs règles
dans la partie va se dérouler
dans la parole va tourner
et parce que ça encode
la manière dont la parole va tourner ça pose une structure. Et ensuite, charge aux joueurs de la décorer, en fait.
Et est-ce que tu as bien aimé justement le genre de fiction qui ont été créées à l'aide, alors visiblement, ça a l'air d'être structuré, alors de manière mécanique cette fois-ci, mais est-ce que tu as bien aimé finalement ce qui en a découlé ?
Mais du coup, en fait...
Par rapport à une partie, par exemple, qui était infinie. En fait, c'est ça que je demande. Et en fait, moi, je pense que, il y a un réel apport, justement parce que, alors que ça soit la mécanique ou alors que ça soit la narration, moi, je veux mon cliffhanger là, ou alors mon jeu m'impose une nouvelle scène à ce moment-là parce que c'est inscrit dedans, je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est mon avis. Et effectivement, par contre, il y a quand même des revers à ça.
Oui, mais qu'est-ce qui est structuré ? Moi, ça, j'en reviens toujours à cette question parce que le mot structure est très très large en fait. Tu vas dire qu'est-ce qui est structure ? Structure de quoi ? Structure de la parole ? Structure de la répartition de la parole ? Structure de, du canon esthétique d'une histoire donnée, par exemple. Regarde, par exemple, si tu prends un film comme Star Wars, tu as des structures qui sont toujours identiques dans Star Wars. Tu as les premières 10 minutes où c'est une petite histoire, un petit arc narratif. On va aller chez Jabba, on va faire un truc sur la planète, sur le, dans le système Hoth. On va aller traquer un bandit qui ne devrait pas vendre de bâton de la mort. Ça, c'est le petit arc narratif. Et puis après, il y a la grosse histoire qui commence. Tu vois, et puis donc on peut imaginer que.
Dans l'intro de James Bond aussi.
Tout à fait, il y a ça dans les scènes d'intro de
James
Bond.
Dans la plupart, effectivement, des histoires qu'on raconte. Mais voilà. Alors moi je parle réellement de la structure des histoires, effectivement, qu'on se raconte.
Quelle structure on parle ?
De celle-là, mais je te dis, en plus de ça, ce que je te dis, c'est qu'elle devrait être corrélée avec la structure de la mécanique pour pouvoir faire, à la fin, en définitive, une bonne partie de jeu de rôle. Enfin, ce que j'estime, moi, l'être. Après, bon, c'est vraiment de mon ressenti. Donc c'est vraiment de ça dont je parle, c'est-à-dire mon jeu va structurer, en fait, va me dire combien de scènes je vais avoir, etc. Mais en plus de ça, ça va alimenter. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. L'un alimente l'autre.
Ouais, mais tu vois, moi, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui fulminent ou des créateurs de jeux qui fulminent derrière leur voiture ou en faisant le ménage ou en écoutant ce podcast. Bref, en écoutant ce podcast, c'est que ils pensent que justement, parfois, certaines choses émergent de la déstructuration des choses, tu vois, de l'explosion de certains codes.
Oui, mais je trouve pas que ça soit antinomique. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent émerger en fait tout simplement d'une structure.
D'accord.
Vraiment.
Okay.
Et que en fait, c'est ce que je te disais là, des jeux à manière anarchiste. Et donc moi je te parlais par exemple de
Lady Blackbird.
Par exemple, bah il y a des choses qui émergent en fait. On voit que c'est pas du tout la, enfin si c'est la même chose entre guillemets à cause de la structure de partie en partie. On a répété quelque chose. Par contre l'histoire est malgré tout différente. Il y a des choses, d'autres choses qui ont émergé. J'ai fait deux parties de Lady Blackbird. Il y avait énormément de points communs et il y avait énormément de différences.
Jérémy.
Oui, mais dans la structure justement dans un jeu anarchique, si ça fonctionne peut-être bien, c'est parce que la narration est vraiment partagée. Si tu structures vraiment dans un jeu de rôle classique, le piège d'avoir que des jeux de rôle classiques bien structurés, c'est que du coup, le MJ, qui est un joueur, lui, n'a pas de surprise. Et donc du coup, est-ce qu'il va vraiment prendre plaisir à être toujours MJ, à savoir toutes les choses, et être au bout du compte que arbitre d'une partie ?
Alors, donc, en fait, c'est, pour moi, en fait, donc, il y a deux choses différentes. Tu as la structure... Et en fait, le scénario, si j'ai ma structure, je peux improviser. En fait, je connais pas mon histoire. Par contre, je sais, j'ai pas d'histoire en fait en tête là tout de suite. Mais je sais que par exemple, au trois quarts, je vais te faire une révélation vraiment terrible. Alors, moi, je sais pas improviser, hein, d'accord. Donc après, voilà, je laisse ça aux gens qui savent vraiment le faire. Mais bon, justement, je me suis juste imposé en me disant, je vais jouer 4 heures, à 3 heures, je vais te faire une révélation de fou. Je pense qu'il y a des MJ qui savent absolument bien improviser et qui peuvent faire ça. Et donc à partir de ce moment-là, tu vas vraiment avoir une émergence et tu vas pas forcément t'emmerder. Tu vas te dire comment je vais faire pendant ces 3 heures-là pour faire naître ce genre d'élément à ce moment-là. C'est un challenge aussi pour toi et tu peux t'en amuser.
Par contre, là, on est à 43 minutes de podcast, donc c'est le moment de passer la parole à Stéphane. C'était le rythme.
Oui, la structure l'impose.
C'était la structure du podcast.
Non, t'avais demandé la parole, non ? Non, même pas.
Non, j'ai plein de trucs à raconter, mais peut-être pas forcément à cet instant-là. Alors, en fait, c'est marrant. Y a une époque où, en écrivant des scénarios Star Wars, je m'imposais la structure de mettre un truc avec la force, une poursuite, un combat et un dialogue badass. Et en fait, pour moi, en fait, il fallait qu'il y ait ces éléments-là qui, pour faire une partie intéressante et qui ait un certain nombre des marqueurs. C'est comme si je te faisais une tarte et que tu voulais trouver tous les principaux ingrédients quand tu vas manger une part, en fait. Et en fait, ça, c'est une manière de structurer les choses. Mais j'ai l'impression que tu nous parles d'une autre manière et qui me semble super intéressante, qui est se donner une structure temporelle. Et sans s'imposer le contenu, et sans rigidifier sur le contenu.
C'est ça, exactement.
Mais se donner une structure temporelle dans laquelle on a une session de jeu, un temps qui va être partagé. Et ce temps-là, en fait, il vaut quelque chose. Les gens s'investissent pour être là. Et en fait, peut-être qu'en se le découpant dans sa tête en petits morceaux et en essayant de donner un sens profond à chacun de ces petits morceaux, peut-être qu'on a une chance de faire quelque chose qui soit moins une marmelade étirée.
Exactement.
C'est pour ça que je te demandais de quelle structure on parle. Dans ma tête, j'avais l'idée de te faire dire que c'était bel et bien une structure temporelle.
D'accord. Alors effectivement, j'ai peut-être dit la manière dont on y arrive.
J'aurais dit chronologique, mais tu préfères temporel, parce que chronologique, c'est mieux.
Chronologique, j'ai l'impression que tu es dans... J'ai l'impression que tu es dans la fiction, alors temporel, j'ai l'impression que tu es dans la session de jeu.
Complètement.
Et dans le temps des joueurs.
Mais à mon avis, en fait, et si on regarde par exemple le jeu de Mathieu, l'horloge du diable, il est totalement dans les deux.
Ah oui.
C'est-à-dire que parce qu'il y a de la structure temporelle, on est bien d'accord... qu'il y a des moments où on ne trahira pas un secret en disant que ce podcast est enregistré peu de temps après avoir fait la partie de l'horloge du diable. Vous voyez, c'est les mêmes podcasteurs.
Très
peu de temps après. Et en fait, si on regarde ce jeu, on se rend compte qu'il y a du temps. C'est-à-dire qu'il savait qu'à 2 heures, on serait à tel endroit. Il avait chronométré l'heure de début de la partie, etc. Mais il savait aussi que telle révélation serait donnée après telle autre. Donc pour moi, il y a deux structures dans le jeu de Mathieu, en l'occurrence. Il y a une structure temporelle, au sens le timer.
C'est pas ce que tu appelles le rythme, ça n'a rien à voir.
Justement, c'est le rythme. Et une structure, on va dire, plus chronologique ou généalogique. Et là, c'est ce que tu appelles la structure narrative, il me semble.
Je m'embrouille peut-être un peu, mais... en tout cas, pour moi, je fais naître cette structure-là de deux éléments, à la fois la narration, à la fois la mécanique. Et c'est vraiment de cette manière-là dont je gère la chose. Et oui, par contre, aussi, pour répondre à Stéphane, là, ce dont je suis vraiment en train de parler, oui, effectivement, t'as bien résumé. J'en suis vraiment content parce que je ne l'aurais pas fait aussi bien. Mais oui, il n'y a rien de rigide à l'intérieur. On peut vraiment en faire ce qu'on veut, quoi, en fait, tout simplement, à l'intérieur. C'est juste que, de cette manière-là, que ça soit en improvisation ou en mettant quelque chose de hyper dirigiste à l'intérieur, on arrive, tout simplement, à faire quelque chose de sympa.
Quand tu dis qu'une scène est scriptée, tu dis qu'elle est structurée de façon chronologique ou généalogique. Quand tu dis d'une scène qu'elle est timée, tu dis qu'elle est... Et à mon avis, dans l'horloge du diable, il y a des scènes timées, au sens où elles doivent intervenir à telle heure, et il y a des scènes scriptées. Mais par contre, je suis désolé Mathieu là-dessus, moi je trouve que dans ce jeu, c'est surtout justement des scènes, si on reprend l'horloge du diable encore une fois, c'est surtout des scènes qui sont structurées chronologiquement. On n'a pas du tout senti le timer quand on a fait la partie de l'horloge du diable.
Je veux dire le...
Pas du tout. La dimension. On n'a pas senti qu'à 2 heures, il se passerait quelque chose.
Deux heures de jeu. Et heureusement, on va y revenir. Et heureusement, en fait, parce que c'est le point négatif de la structure, c'est que la structure doit savoir se faire oublier. Si jamais la structure, elle est apparente, c'est fini, en fait.
Si on voit les ficelles...
C'est terrible.
On voit les fils, après.
C'est terrible. C'est terrible et ça fait sauter... Ça, c'est vraiment. Je vais passer à la limite aux aspects négatifs. Il faut vraiment que.
Sauf si Stéphane, peut-être que. Oui. Parce que, excuse-moi, je t'ai un peu interrompu, Stéphane, pendant que tu parlais.
Il y a plein de trucs qui sont en écho.
Donc effectivement, si la structure est trop apparente, ça va produire l'effet inverse en fait chez le joueur. Moi, je l'utilise pour faire en sorte que les joueurs ressentent, soient bien immergés, me comprennent bien, que ça soit compréhensible, que ça passe entre nous. Mais si jamais en fait ils le voient trop, ils savent, ils s'y attendent. Ils vont déconnecter. Alors ça peut se passer au niveau de la narration quand effectivement des fois vous vous dites là ça va vraiment être le moment de la révélation et paf, c'est le moment de la révélation qui tombe. C'est un peu dommage.
Ça brise la suspension d'incrédulité pour le coup.
C'est ça. On voit que le mec derrière, il est avec sa truelle et qu'il a fait la chose un peu de manière. Il aurait pu un petit peu mieux le faire. Et c'est la même chose d'un point de vue mécanique quand tout simplement le jeu t'impose. tu vois vraiment les phases que le jeu t'impose. Comme par exemple, dans un jeu de survie, bah là, tu vas faire une phase de chasse, et là, tu vas faire une phase de nuit. Et là, une phase de chasse, et là, une phase de nuit. Et là, une phase de... Et au bout d'un moment, tu pètes un câble, quoi. Mmh. C'est plus possible. Donc ça, c'est vraiment les défauts auxquels il faut faire attention.
Quand on veut structurer ses parties, hein, d'accord. Jérémy, t'avais envie de prendre la parole, non ? D'accord. Mmh. Donc là, enfin voilà quoi, en termes de moi, ce que je connais en tout cas comme jeu qui fait ça, qui produit ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle donc les machines à saucisses. Encore une fois, il y en a de deux types. Il y a les machines à saucisses telles qu'elles ont été décrites au tout départ. Le terme sausage machine vient d'une discussion entre Ron Edwards et j'allais dire Ben Harper, mon Dieu, et John Harper. Donc au cours de laquelle il parle d'un jeu dont les mécaniques tournent toutes seules, c'est-à-dire que le jeu se fait tout seul d'un point de vue mécanique, et les joueurs doivent ajouter de façon épiphénoménale, c'est-à-dire alors qu'il se passe quelque chose du point de vue de la mécanique, ils doivent ajouter un élément fictionnel en rapport avec l'élément mécanique qui vient de se passer. Mais ce sont les mécaniques du jeu qui guident ce que l'on doit raconter. C'est pour ça qu'on parle d'épiphénomène, les phénomènes entre eux ne se causent pas les uns les autres. Les événements fictionnels ne s'enchaînent pas les uns les autres. Alors c'est la mécanique...
Comprendre. Par exemple, si tu as un jeu dans lequel tu donnes des noms aux choses... Mais finalement, le nom que tu as donné aux choses n'a pas de conséquences. Pour toi,
C'est-à-dire qu'en fait, un mécanisme épiphénoménal, c'est un mécanisme dans lequel les phénomènes surviennent de façon individuelle et sans avoir de cause et de conséquences les uns par rapport aux autres. Quand on parle donc en fait, dans un jeu, dans une machine à saucisses, tel que, encore une fois, on parle Harper et Edwards, c'est... La fiction n'est qu'un... Les événements fictionnels sont des épiphénomènes. C'est-à-dire que les événements fictifs décrits précédemment ne vont pas avoir tant de conséquences que ça sur les événements décrits après. Pourquoi ? Parce que c'est la mécanique du jeu elle-même qui dit comment les événements doivent être décrits. Donc je vous donne un exemple d'une machine à saucisses de ce type. Volonté. C'est « Décris ton crime ». Stéphane, « Décris ton crime ». Puis ensuite, on passe à Jérémy, je dis « Décris ton crime ». Puis ensuite, vous jouez des criminels, d'accord ? Donc je vous dis « Décris ton crime », etc. Puis ensuite, je passe à Stéphane et je dis « Décris les conséquences sur ta famille, de ton crime sur ta famille ». Puis après, etc., etc. Et en fait, on voit que qu'est-ce qui fait que vous êtes obligé de décrire des phénomènes fictionnels ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes obligé de décrire de la fiction ? C'est le fait que le système, les mécaniques, en fait, tournant toutes seules, vont vous obliger à faire des descriptions, mais après tout, le crime que vous avez commis et les événements que vous allez décrire après pourraient être complètement décorrélés les uns des autres. Et en général, ce qui se passe dans ces mécaniques-là, c'est que la façon... Là, c'est grossier, parce que c'est moi qui vous dis « décris ceci, décris cela », mais en règle générale, ce qui se passe dans les machines à saucisses de ce type, c'est que ce sont les dés ou les mécaniques de résolution qui disent qui décrit quoi et comment. Alors au final, c'est pas quelqu'un qui, de façon aussi arbitraire, pointe du doigt quelqu'un et lui dit décrit, mais c'est une mécanique de jeu en fait qui le fait. Donc ça, c'est le premier cas de machine à saucisses. On dit aussi, par exemple, imaginez deux joueurs d'échecs qui s'affrontent sur une partie d'échecs. Ils font une partie d'échecs, ils jouent aux échecs. Donc le jeu auquel on joue, c'est les échecs. Et en plus de ça, on leur dit, à chaque fois que vous prendrez une pièce, vous devrez décrire ce qui se passe dans l'histoire de cette partie d'échecs comme s'il y avait une fiction. On voit que chaque événement décrit est causé par des mécaniques, à savoir le meilleur joueur d'échecs, la façon dont on joue aux échecs, qui prend qui et qui comment on va prendre les pièces, etc. Et que les événements fictifs décrits ne dépendent que d'événements mécaniques de jeu d'échecs, en fait, et ils sont épiphénoménaux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un événement fictif qui s'est produit qu'on va raconter un autre élément fictionnel. Non, c'est pas comme ça que ça marche.
En fait, c'est juste du décorum à un système.
Exactement. C'est-à-dire que dans une machine à saucisses telle que le décrivent Harper et Edwards, c'est juste habiller, raconter une histoire sur une mécanique qui tournerait en elle-même, même s'il n'y avait pas la fiction. C'était pas nécessaire d'avoir une fiction. Alors que un jeu de rôle, c'est-à-dire qui n'est pas une machine du coup à saucisses en opposition. Enfin, je sais pas, une non machine à saucisses. Je vais pas dire un jeu de rôle parce que les machines à saucisses sont des jeux de rôle. Donc une non machine à saucisses, c'est un jeu dans lequel les événements fictionnels entre eux se causent. Et c'est parce qu'il y a des événements fictionnels qu'on doit faire appel à un moment donné à la mécanique pour résoudre des situations fictionnelles qui elles-mêmes vont entraîner d'autres situations fictionnelles. Vous voyez la machine à... Ça, c'est le premier type de machine à saucisse. La deuxième machine à saucisse est là, qui est une erreur complète de la cellule, c'est-à-dire qu'au cours de son histoire, la cellule a fait un certain nombre d'erreurs conceptuelles, j'imagine que vous le savez. Et donc, au départ, on pensait qu'on a confondu en fait, la machine à saucisse avec ce qu'on appelle maintenant la posture d'auteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un jeu nous dise « décris ceci ou décris cela ». C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des jeux qui vous disent « pose une situation fictionnelle ». Et on pensait, parce que justement, les machines à saucisses auxquelles on avait joué, c'était beaucoup des jeux qui nous mettaient dans ces situations de posture d'auteur, on pensait que c'était ça, une machine à saucisses. Donc voilà, juste pour préciser, quand la cellule parle de machine à saucisses, on parle parfois de jeux à position d'auteur ou forte, et parfois... dans le deuxième cas, de façon edwardienne ou harperienne. Donc du coup, c'est un concept qu'on a, la machine à saucisses, qu'on a un petit peu laissé tomber, parce qu'on l'a tellement mal employé qu'en fait, maintenant, quand on le dit, on peut vexer des gens, ils pensent qu'on parle d'un truc.
Pas super beau comme terme, en fait.
Hyper péjoratif, mais comme tout Ron Edwards. Enfin, le truc impossible avant le petit-déj, je trouve ça beau.
Ah oui, moi je trouve ça rigolo. Cette idée-là, en fait, du truc impossible avant le petit-déj et cette formulation, moi, ça me plaît.
Mais si tu t'intéresses à Ron Edwards, tu verras, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, ouais. C'est bourré, il parle
Alice.
Comme ça.
C'est Alice au Pays des Merveilles, ça, non ?
Oui, voilà, ouais, c'est ça. Bon, la référence est peut-être un peu plus classe, mais enfin bon. Parler de brain damage, par exemple, pour parler de la première fois où tu fais du jeu de rôle. Vous savez, ce phénomène de. On vous fait faire du jeu de rôle la première fois, et puis on vous dit, voilà, c'est le jeu de rôle. Et du coup, après, quand vous allez faire du jeu de rôle, vous allez rechercher forcément l'envie de faire la même chose. Bah, le brain damage, c'est ce que c'est à l'origine. C'est le fait qu'une nana ou un mec ayant sa première relation sexuelle, on va dire déviante, enfin déviante, c'est un bien grand mot, mais que la première relation sexuelle, fût-elle violente ou choquante, soit ensuite le marqueur de ce que doit être une relation sexuelle en termes généraux. Autrement dit, tu as vécu un traumatisme la première fois que tu as fait l'amour. Du coup, tu vas chercher à reproduire ce traumatisme à chaque fois que tu feras l'amour par la suite.
C'est tellement sympa d'importer ce terme dans notre domaine, quoi.
Ouais, tu te rends compte ? Donc c'est ultra choquant. Donc ça évidemment, enfin, quand on dit que Romaric Brillant est un troll avec la cellule parce qu'il choque les foules, enfin, qu'il choque les rôlistes et tout ça, et qu'il cherche à créer du débat, je veux dire, allez voir Outre-Atlantique, Ron Edwards qui est vénéré, etc. Vous verrez que c'est 100 fois plus bourrin que ce que Romaric Brillant et toute la cellule réunie a pu faire comme polémique. Hein.
J'ai
appelé ça du brain damage. C'est ultra violent.
Enfin, le terme machine à saucisse, en fait, me semble. Tu peux pas en dire du bien une fois que t'as dit que c'était une machine à saucisse. Enfin, je sais pas, d'être charcutier et de vraiment aimer les métiers d'art, quoi.
C'est pour ça qu'on a arrêté de l'employer, parce qu'il était trop péjoratif. Mais pour autant, voilà, c'est un concept édouardien qui a été abordé sur le forum de la Forge et qui a fait des petits et dont on a parlé et compagnie.
À un moment, quand on essaye de comprendre des concepts, on les emploie, on essaye de. Voilà, et puis des fois, on peut dire.
Et on fait forcément des erreurs, voilà, c'est pas grave. Alors, tout ça pour dire que la structure, tu vois, là, dans ces cas-là, dans la mesure où ce n'est que des mécaniques et qu'elle crée des éléments, des événements fictionnels épiphénoménaux, eh bien, elle nuit carrément, en fait, à ce qu'est le jeu de rôle.
Oui.
Parce que le jeu de rôle, justement, c'est la réflexion sur des situations possibles. Mais si ce sont les mécaniques qui doivent nous dire quelle situation on décrit, eh bien, à trop de structure, on finit par tuer la réflexion.
Exactement.
Non, tuer la réflexion elle-même. Tuer la malléabilité du contenu fictionnel et donc à tuer l'essence même du jeu de rôle.
Attention, ça c'est de la structure du contenu, alors que là on parle bien du structure du temps.
Non, on parlait aussi de la structure événementielle, la structure chronologique. C'est important. C'est hyper important.
Ouais,
parce que quand tu dis décris ton crime, décris comment ta famille réagit, c'est de la structure chronologique.
Si les choses qui vont se passer dans l'histoire qui va être qu'on va commencer à se raconter ensemble découlent en fait d'un système de jeu qui finalement ne sait pas ce que tu as raconté et continue à jouer tout seul, là en fait c'est les éléments qui vont apparaître dans ta narration qui proviennent de ça. Alors que là en fait ça empêche pas de dire Il reste deux scènes avant la fin. Je le sais, je le prends en compte pour en tirer le meilleur, sans forcer quel est le contenu.
Moi, tout ce que je veux, enfin tout ce qu'il me semble, mais après peut-être que je l'exprime mal, c'est que trop de structure tue non pas la structure. On a entendu le dire trop de structure tue la structure. Non, ouais. ça c'est trop de structure tue la malléabilité du contenu fictionnel et donc tue le jeu de rôle. Ça devient du théâtre, en fait, c'est ce que je voulais dire. Inversement, pas assez de structure crée un mème, une répétition de toujours le même truc. Ce que tu as appelé le syndrome de la carte postale, Stéphane. Est-ce que tu veux nous en parler ? C'est intéressant, ça.
Je pense que c'est encore autre chose.
Ah non, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'à force de ne pas avoir de structure, on finit par répéter toujours les mêmes codes. Ah non, ça, j'en suis sûr.
D'accord. Bon, alors, si tu veux, je veux bien vous raconter ça. C'est l'histoire qu'en fait, beaucoup de jeux de rôle, et pendant longtemps, en fait, le jeu de rôle, il me semble, a été vraiment capté par la répétition de toujours la même chose. Et cette même chose, c'est dire que les joueurs vont jouer des personnages tous différents, tous complémentaires, qui vont se liguer ensemble et vivre des aventures, lutter contre des adversités. Peut-être à un moment, il va y avoir des trucs épiques, des aventures, peut-être des combats, des choses comme ça. Et quelque part, en fait, ils vont plutôt lutter contre le mal pour faire le bien, et à la fin, tout le monde en sortira grandi. Et en fait, il y a cette espèce de truc, et en fait, il y a des gens pour qui c'est encodé que le jeu de rôle, c'est ça.
Voilà, ça, c'est la structure narrative.
Et par contre, derrière, en fait, on change la carte postale, on change un espèce de décor factice qui serait derrière ça, et en disant...
Chez
les samouraïs.
Avec des mechas.
J'ai la carte postale samouraï, avec des mechas, dans l'espace avec des gros lasers.
Ah, c'est ça. Le médiéval fantastique.
Et au final, on est toujours en train de jouer la même chose, sauf que c'est une épée laser au lieu d'être une épée magique.
Et bah pour moi, ça, typiquement, c'est une absence de structure qui crée du mème. Tu vois, crée du... C'est-à-dire qu'il y a un moment donné... De l'autoréférence infinie, qui fait que du coup, on finit par faire toujours la même partie de jeu de rôle. Et là, on en revient, si j'ose dire, le podcast est... La boucle est bouclée, on en revient à ce que disait Jérémy au départ. Il disait que le fait que les jeux soient infinis, ça fait qu'au final, on joue toujours à travers une carte postale différente, comme tu dis, on joue toujours la même histoire. Et du coup, à un moment donné, la sensation d'en avoir fait le tour, quoi. Faire ça avec des vampires, faire ça avec des nains, des elfes et des humains, puis ensuite faire ça avec des investigateurs du mythe, si j'ose dire, il y en a un moment donné, il y en a marre. Et justement, tiens, je pense à ça, les investigateurs du mythe, c'est un petit peu l'inverse de la carte postale. Je trouve justement le mythe de Cthulhu, il se fonde un petit peu sur le modèle inverse de la carte postale en invitant les meneurs de jeu à proposer une autre structure. Et je trouve que c'est... Est-ce que tu trouves pas, Stéphane ?
C'est quand même des gens tous différents mais complémentaires qui vont se liguer pour essayer de
sauver
le monde,
mourir.
De faire que le monde ne sache pas.
Ouais, ils vont tous mourir, ils vont pas avoir une longévité énorme.
Oui, dans ce truc-là, voilà. Ils vont tous mourir, mais
enfin bon.
Je pense que c'est un petit détail.
Voilà, toujours est-il que, pour moi, trop de structure, ça tue complètement...
Loi et chaos.
La Marelle et le Locrus.
Alors, trop de structure, en fait,
tu te retrouves
à faire comme du théâtre c'est-à-dire quelque chose d'absolument codé, dans lequel tu ne fais que répéter des formes, et pas assez de structure, t'es into the wild, tu peux te perdre, tu peux t'ennuyer fermement.
Oui, mais attention, moi je pense que quand tu n'as pas de structure, je soutiens mon truc Mordicus, tu sombres dans... le même. C'est-à-dire, en fait, comme on dit, à défaut, tout le monde est de droite.
Tu reboucles.
C'est-à-dire à défaut, tout le monde est de droite. C'est-à-dire que à défaut, si tu réfléchis pas à tes propres déterminismes, tu finis par répéter les déterminismes qui sont tiens et tu finis par répéter la structure dont tu as hérité. Tu fais ce qu'on a toujours fait, la tradition. Tu vois, tu répètes les mêmes de ton. Il faut réfléchir sur ses propres déterminismes pour ensuite. Donc à mon avis, quand tu ne veux pas de structure, tu tombes dans une structure. La structure préétablie, la structure qu'on a voulu pour toi, la structure que tes parents t'ont donnée. Et tes parents, c'est justement...
C'est exactement super. Je vais rebondir là-dessus. C'est en effet, les enfants, quand ils jouent, ils font donc du jouet. Il n'y a pas forcément de règles. Ils font des jeux d'imitation. Ils jouent à papa, maman. Donc en effet, quand il n'y a pas de structure dans le jeu, on dirait que tu es papa, on est avec une maman, et on fait du copier-coller de ce qu'on voit.
De ce qu'on voit, c'est ça. Donc en fait, la volonté de structure attendue par Mathieu, elle permet de réfléchir sur les déterminismes actuels du jeu de rôle, sur les mêmes du jeu de rôle, et de les repenser, de les retravailler. Et peut-être un jour, la structure du jeu de Mathieu, ce qu'il aura été vendu autant qu'à D&D, deviendra le même.
J'espère.
Peut-être qu'un jour, ça deviendra le même. Et qu'un autre Mathieu, Mathieu Prime, viendra et dire « Oui, mais regardez, c'est toujours la même structure, c'est la carte postale, on joue toujours depuis des années, on joue à l'horloge du diable, il faut changer la structure. » Moi, je pense vraiment que ce désir que Mathieu a de nous faire réfléchir sur les structures ce soir, c'est cette idée de aussi changer de paradigme, en fait. Moi, je pense que... Non, je sais pas, Mathieu.
Ben, ça fait beaucoup de choses. Hein. Là, je sais plus trop quoi dire. Mais non, c'est surtout pour... moi, c'est surtout pour avoir... c'est toujours ça. C'est toujours la même recherche. C'est, je pense, en fait, qu'en jeu de rôle, le souverain bien, c'est d'avoir le maximum d'émotions. Et je pense que ça passe aussi, en fait, par ça. Quoi.
Pour toi, la structure est condition de possibilité de l'émotion.
Ouais.
Et...
Largement, puisqu'en fait tu vas calquer dessus en fait tout simplement une c'est ce que je t'ai dit, une rythmique, une courbe de tension, et à partir de ce moment-là, si à partir du moment où je mets une notion de temps, et ben je vais pouvoir imprégner chez toi, je vais pouvoir imprégner des émotions, alors que ça soit bénéfique ou pas, enfin une sensation d'oppression, de pressement, de révélation de plein de choses. Mais en fait, même on en assiste énormément dans les films, comme par exemple dans les histoires d'amour, on voit toujours les mêmes oscillations, etc. Si je peux vous faire un jeu de cette manière là je pense que j'arriverai, et si j'arrive à reproduire la même structure, je pense que j'arriverai à vous faire ressentir les mêmes émotions à peu près, quoi, je pense.
La place des rituels dans tout ça. Moi, je me demande jusqu'où... Il y a beaucoup de jeux de rôle qui sont souvent excellents, qui mettent en place des rituels. Je pense à Polaris de Ben Lehman, je pense à Miles Christie, je pense à d'autres jeux, mais que je n'ai pas le droit de citer parce qu'ils sont encore en préparation. Mais il y a des jeux de rôle qui insistent énormément sur la ritualisation.
Oui,
la ritualisation, ça fait partie de la structure.
Oui, mais ça rythme, effectivement. Quand tu me dis, par exemple... Enfin, après, moi, je ne connais pas tous les jeux, mais je vois ce que tu veux dire avec celui de Ben Lehman, Polaris, où au tout début du jeu, je crois qu'il faut dire des phrases particulières. On est au tout début du jeu, en fait, tout simplement. Et ça c'est un geste fort qui va percuter le cerveau des gens qui t'écoutent, quoi. Ah ouais, là, je commence, je fais vraiment ça. Mais je pourrais très bien inventer un rituel qui commence à poindre, on va dire, aux trois quarts de la séance, et qui commence à indiquer aux joueurs qu'ils sont obligés d'accélérer ou ce genre de choses. Oui, c'est, par exemple, hein, on peut vraiment utiliser ça. Ça peut être un moyen.
La structure chez Ben Lehman est même encore plus forte qu'on ne le pense, parce que, par exemple, dans Polaris, les phrases même, les propositions même échangées lors des conflits de résolution, enfin du système de résolution, sont codées. Il y a le « si et seulement si ». Ah oui. Il y a le vous en exigez bien trop, c'est ce qu'on va voir, etc.
C'est la structure de la parole des joueurs.
La parole, exactement. C'est-à-dire qu'il va même. Donc il y a cette exigence chez Ben Lehman de vraiment structurer. Et dans. Il me semble que c'est dans. Ah merde, j'ai oublié ce jeu, le jeu de mecha. Dans lequel on se bat avec une armure qui est faite de ses sentiments. Je me souviens plus. Et dans ce jeu-là, en tout cas, il y a aussi une structure.
Blitzstage,
c'est ça.
Oui, bravo.
Il y a aussi une structure qui est faite de. Vous explorez le monde.
Effectivement.
Alors moi, j'y ai pas joué à titre personnel. Enfin, j'y ai joué, mais je sais plus si j'y ai joué ou pas. Et en gros, il y a un monde qu'on explore, en fait. Et quand on l'explore, on parle à la première personne du singulier, on décrit ce qu'on y voit. Et après, on va sortir de cette exploration, on va passer dans une autre phase. En tout cas, il y a cette description de jeu, d'étape de jeu en phase.
C'est ça.
Les gens qui parlent
ça.
De structure, ils parlent souvent de phase.
Ouais, de phase de jeu. Ça me va aussi, effectivement. Ouais.
Voilà. Bon, enfin, c'était juste pour. Mathieu, excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, bah ça.
Et rapidement, pour dire aussi, ajouter que la structure, ça a aussi quelque chose de rassurant. Moi, je le vois par rapport à mon fils, le rituel, la structure dans la vie de tous les jours, notamment pour les enfants, c'est extrêmement rassurant. Et nombre d'enfants testent les limites uniquement pour vérifier que les structures sont toujours présentes. Et quand tu les engueules, de fait, ils te sourient, ils sont contents, ils sont rassurés. Et moi, je pense aussi, ce qui a fait un des problèmes du jeu de rôle dans les années 90, c'est que comme le jeu de rôle n'était pas suffisamment, à mon avis, structuré, ou en tout cas, on laissait trop de liberté sur la structure, avec la règle d'or, on va pas revenir là-dessus. Hein. Je vous invite à écouter tous les podcasts sur les jeux de rôle des années 90 qu'on a fait, Vampire et compagnie. Il y a une règle d'or, en fait, qui fait qu'on est libre de ne pas respecter la structure. Et ben, ça a quelque chose d'extrêmement effrayant. Là où les jeux de plateau ont vraiment réussi. Parce que eux, ils disent, bah voilà, une partie de ce jeu-là, ça se passe comme ça, avec les joueurs, mais comme ça, avec ces dés, comme ça, dans tel temps, etc. etc.
Je confirme.
Donc là, à mon avis, il y a cet aspect extrêmement rassurant. Et...
De toute façon, un jeu sans rythme, que ce soit jeu de rôle ou jeu de société, ça ne peut pas marcher. Toi, tu sais ce que tu viens de dire.
Ouais.
Et en effet, le jeu de société, depuis les années 80 à aujourd'hui, ils ont vraiment repensé au rythme en disant « Allez, on va faire un jeu qui dure 8 heures dans les années 80 ». Aujourd'hui, on se dit « Ouh, si le jeu dure plus une heure, les gens ne vont pas accrocher quoi que ce soit ». Donc, ils ont bien compris qu'on va raccourcir un maximum pour que le rythme soit
soutenu,
pas forcément toujours, ça peut être des fois tranquille, mais en tout cas,
il
faut que ça tienne au moins dans une heure, parce que voilà, on a décidé maintenant que les gens sont bien dans une heure de jeu.
Je vois deux bénéfices à ça. C'est d'une part de pouvoir clore des choses, et quelque part de pouvoir se décharger de la charge de devoir continuer quelque chose. Par exemple, au moins, j'ai fait une histoire où il y a un arc narratif que j'ai réussi à clore. Bah, cette partie-là, c'est calmé, je vais pouvoir me consacrer à autre chose. Et en fait, j'aurai ça en moins à penser. Donc en fait, je me libère d'une partie de ma charge, des choses, du mouron que je me fais, des choses.
C'est un accomplissement en quelque sorte, en plus de ça.
Ben ouais, parce que ça amène une récompense.
Ouais,
si vous avez un jeu, en fait, le fait de récompenser les joueurs, c'est quelque chose qui est primordial dans les jeux, qui est encodé dans des Candy Crush bien plus qu'on est capable de le faire dans du jeu de rôle, et avec bien plus de conscience qu'on est capable de le faire. Et en fait, ce genre de jeux sont des machines à reward dans lesquelles, en fait, toutes les quelques minutes, on est content d'un petit quelque chose qui va permettre de se donner le courage d'aller chercher la chose suivante.
Ouais, tout à fait.
Il y a une fin à Candy Crush ou pas? Je ne connais pas du tout ce jeu.
Est-ce qu'il y a une fin à Candy Crush?
Alors, dernière nouvelle sur ce que j'ai réécouté cet été de Ludologie, ce qu'ils en disent, c'est qu'ils pensent que c'est un générateur aléatoire qui continue à jamais. Mais ils n'en sont pas sûrs. Donc on peut peut-être réexplorer ça. Si vous le savez, mettez-le en commentaire.
Ouais.
Ce sera cool.
Je me disais, en t'écoutant Mathieu présenter ce podcast, que Sens était un jeu qui correspondait parfaitement à ça. Et puis je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'avais décidé que Sens était un jeu fini? Et en fait, je me souviens de la raison. C'est parce que c'était... à l'époque de séries télévisées qui n'avaient pas de fin, où les fins, ça partait en couille. Je me souviens notamment d'X-Files, où à la fin, en fait, ça ne finit plus de ne finir, tu vois. Enfin, il y a un côté, on rajoute, alors bon, bah, le perso principal, il est parti, mais c'est pas grave, il y a Robert Patrick qui arrive, et puis en fait, on essaye de faire survivre comme ça. Il y a cette espèce de syndrome du truc qui ne finit pas. Il y a Lost aussi qui est un peu comme ça, qui fait beaucoup de promesses. Et je trouve
la moitié des séries sont comme ça.
Et ouais, carrément, et c'est triste. Parce que je trouve que de dire We Heroes, par exemple, qui était une série aussi qui existait quand j'écrivais Sens Renaissance, la réédition. Et en fait, il y a un truc que je trouve qui est clair, c'est que quand tu dis le jeu, il a un début, il a une fin, ça laisse entendre à la personne qui va acheter ton jeu que le jeu, il a été pensé du début à la fin, que dès le départ, dans les premières lignes de texte, tu vas trouver des éléments qui vont résonner avec la fin du jeu. Et ça, Sens, vraiment, là-dessus, est complètement en adéquation avec cette idée-là. Et quelque part, il y a une promesse de travail. Enfin, je ne sais pas comment dire, que le jeu, il a été travaillé,
il a été pensé
complet.
Oui, et quand tu as une structure, effectivement, bah, c'est déjà ça. En fait, il y a déjà une préparation. Et alors, effectivement, c'est ce que je disais, qu'elle soit improvisée ou qu'elle soit réellement préparée. En fait, il y a des gens qui peuvent arriver, qui ont déjà une structure et à laquelle se raccorder, et qui s'arrivent, bah, tu peux arriver comme ça, spontanément. Et tu sais, tu vas pouvoir retomber dans certains, malgré tout, dans certains schémas et faire en sorte que ça soit vraiment, que ça soit vraiment libre. Ou au contraire, bah, effectivement, tu peux la penser avec, avec un propos à côté, vraiment que tu veux développer.
C'est pour ça, tu vois, que pour moi, la structure, c'est devenu finalement la structure de sens, le fait que ce soit six tomes en six scénars, que ce soit fini et tout ça.
Que ça soit découpé.
C'est devenu un argument commercial, si j'ose dire. C'est-à-dire que parce que du coup, tu te dis, bah ouais, si c'est découpé comme ça, si c'est fait comme ça,
c'est
bah
pensé comme
pensé
ça.
Comme
exactement.
Ça. Et tu vois, excusez-moi, ça va être un peu un jeu de mots, ce que je vais dire. Mais quelque part, un jeu infini, est-ce que c'est pas un jeu qui trahit le fait qu'il est non fini, au sens où il n'est pas terminé, il n'est pas achevé? Alors, il y a beaucoup de gens qui tiennent à cet aspect-là du jeu de rôle aussi. Qu'est-ce que justement, c'est ça qui est cool dans le jeu de rôle. C'est
à qu'on l'aspect jouet.
L'aspect jouet, à l'aspect building.
Ils veulent continuer à jouer avec leurs briques, leurs figurines,
c'est
et
ça.
Tout ça. Et ça peut être très, très intéressant, mais effectivement, on est moins dans le jeu.
Tiens, mais est-ce qu'on n'est pas en train de trouver là la dichotomie, en fait, fondamentale entre les jeux, entre le problème des jeux à propos? Vous savez, il y a des critiques qu'on entend sur les jeux de Frédéric, de Fabien, de Thomas Munier, de Vivien Féasson, les gens des ateliers imaginaires, on leur dit, mais en fait, vos jeux, ce sont des jeux à one shot.
Oui, sur la rejouabilité, c'est ça. Fait de dire, j'achète un jeu, je peux pas jouer 8 ans une campagne.
Parce que justement, ils ont une structure forte, tu vois, Mathieu. Mm-hmm. Et d'autres joueurs qui attendent d'un jeu qu'on leur donne les clés pour jouer pendant des années et qui disent mais c'est ça le jeu de rôle parce que tu vois, j'achète une base à 50€ et avec ça je vais jouer pendant des millénaires et des millénaires.
Et tu ne découvres pas de nouvelles expériences.
Mais cela dit,
je fais une petite critique.
Oui, voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est que, mais tu vois, faut choisir, tu vois, un jeu qui propose une nouvelle expérience mais en même temps qui fait bien ce qu'il fait mais qui le fait qu'une fois, entre guillemets, ou qui, tu vois, qui est fini, ou alors un jeu infini. Tu vois, mais qui propose une expérience peut-être un peu...
Cela dit, il suffit de faire des arcs. Hein. Il suffit juste de faire des arcs et de les enchaîner. Moi, je fais des campagnes de vampires, mais elles ont toutes une fin. Et puis, en règle générale, ça se finit très mal pour mes joueurs parce qu'ils se tuent tous les uns les autres. Et que, bon, c'est... Bon, bah, en tout cas, c'est du vampire. Et on fait
les personnages se tuent tous les uns les autres.
Oui, les personnages. Diablés, et voilà.
Voilà, en gros, on est vraiment...
Ils ont toute l'aura bien striée.
C'est ça, ils sont tous contents parce que... Non, ou pas même d'ailleurs. Enfin, bon, bref, il se passe plein de choses. Et donc, on joue le premier arc et puis hop, on joue le deuxième arc. Moi, ça se déroule dans le temps. Ça commence à l'époque romaine sous la République. Et puis, hop, après, j'accélère dans le temps. On arrive sous les guerres puniques. Et ensuite, hop, on accélère dans le temps. On arrive sous la République. Et puis, c'est des arcs, en fait, tout simplement. Mais ça joue. Ça joue. Juste, c'est 5 séances, 7 séances. Et c'est très, 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 très intensif. Oui.
Tu as mis de la structure dans tes parties de jeux de rôle traditionnels pour éviter.
Ah bah pour que mes joueurs se fassent pas chier. Parce que moi, je me suis aperçu que mes joueurs à moi, et c'est encore une fois, hein, je redis, hein, on est sur une réflexion qui est basée sur une expérience personnelle. Oui, mes joueurs à moi, et moi-même d'ailleurs, je m'emmerde, en fait, tout simplement. J'ai déjà vu, c'est ce que je disais, hein, en préambule, dans des conventions, on m'a déjà fait jouer à des jeux. Enfin, bah, je suis désolé. Enfin, il y a un minimum à donner, quoi, en fait, tout simplement. Bon, alors là, en convention, c'est encore sublimé par le fait que tu payes. Hein, et, en fait, tu payes pour que ça se passe mal. Ouais, c'est pas la peine. Puis même mes potes, bon, bah voilà, moi, s'ils viennent, c'est pas pour. Voilà, c'est pour qu'on passe ensemble un bon moment. Et donc, effectivement, c'est pour ça vraiment que j'ai fait ça. Oui, et c'est ce que tu disais, ça apporte de la compréhension. La personne sait en face réellement de intuitivement de quoi ça parle. Donc, c'est pour redire ce que tu disais vis-à-vis de ton fils. Mais c'est effectivement ça. Ça la rassure, c'est compréhensible. C'est quelque chose qui est. Voilà, ça parle immédiatement.
Ouais, en fait,
on va s'y retrouver dedans. Et après, peu importe ce qu'on va dire à l'intérieur. C'est ce que je disais, c'est pas parce que tu as la grammaire du jeu de rôle que tu vas arriver à faire une partie phénoménale. Il va te falloir ce supplément d'âme, cette improvisation, ce scénario super que tu as travaillé pendant je sais pas combien de temps pour pouvoir vraiment transporter tes joueurs. En attendant, tu as quand même quelque chose pour... pour jouer, pour au moins que ça soit pas ça ne risque pas d'être catastrophique. C'est pour éliminer le fait que ça puisse l'être. Après, je dis pas, hein, y a des gens qui jouent totalement sans avoir pensé à ça et qui font des très très bonnes parties. Mais bon, moi, j'en ai pas rencontré
ils
souvent.
Sont de très bons surfeurs.
Voilà,
qui,
c'est ça.
Qui ont un très bon feeling de ce qui est en train de se passer.
Et la question de qui impose la structure dans un jeu, tu ne te la poses pas, tu t'en fous.
Qui
impose la structure dans un jeu ? Parce que souvent, on dit aussi des jeux, des ateliers imaginaires, que c'est des jeux un peu tyranniques. C'est-à-dire que les auteurs sont un petit peu tyranniques. Ils imposent leur manière de jouer dans leur jeu à travers leurs règles qu'ils veulent à tout prix qu'on respecte, etc. Dixit, la conférence que j'ai donnée pour le Stunfest avec Sébastien Cédrin la première fois et Aline et compagnie, où je disais, j'insistais particulièrement sur le fait que les jeux, ils devaient être joués by the book, par les règles, sous peine de ne plus jouer au jeu, etc. Et donc, ça nous fait passer pour des auteurs un peu tyrannique, qui chercherait à imposer, etc. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut respecter les règles du jeu. Après, on peut faire des réglages, ça, il n'y a pas de problème, mais il faut au moins respecter un minimum les règles du jeu. En tout cas, elles doivent être respectables. C'est ça, le point. Mais du coup, toi, tu t'en fous de ce débat, de savoir qui est-ce qui...
Moi, je veux de l'émotion, en fait. Je veux que mes joueurs ils ressentent une émotion, et si ça passe par quelque chose de tyrannique, eh ben, ça passera par quelque chose de tyrannique. Après, bon, voilà, hein, moi, j'ai jamais
vu
mes joueurs...
Donc, tu t'en fous de qui impose la structure ? Ça peut être l'auteur, ça peut être le meneur, ça peut être les joueurs.
À partir du
moment. Ça peut être les joueurs. Est-ce que les joueurs peuvent dire bon, ce soir, je voudrais un jeu comme ça, meneur, tu t'adaptes.
Bah oui, à partir du moment en fait où ça les fait pas déconnecter de la fiction, donc en rapport à ce qu'on a déjà dit sur les limites de la structure, du fait que ça peut faire sortir. Si mes joueurs ils sortent pas, et bah ouais, super, enfin on fait un bac à sable, on fait tu veux faire quoi, tu veux sauver la princesse ce soir, bah vas-y, on va sauver la princesse, il y a pas de souci. À partir du moment où tu restes avec moi dans la fiction et genre tu surkiffes à la fin des 4 heures, tu me dis oh, c'était vraiment tellement génial que non, moi je m'en fous en fait. Moi c'est pas ça, c'est effectivement c'est oui, bah dans ce cas là si on veut dire que je suis tyrannique, ben voilà, je suis tyrannique.
En attendant, tu vois ce que je vais sauver toute seule surtout.
Oui, voilà. Alors effectivement, peut-être que c'est un mauvais exemple.
Je pense que le débat est important, c'est-à-dire que dire quand tu viens faire ce podcast pour dire la structure est importante, tu veux pas dire auteur, vous devez structurer forcément vos jeux.
Non. Bah moi je constate en tout cas que ça marche vraiment avec moi et donc voilà. En gros je fais partager ça. J'ai ces interrogations là. Je pense pour moi que c'est la meilleure manière de faire. Après vous êtes d'accord. Enfin de toute façon je vais jamais pouvoir dire non toi t'as pas fait la structure. Tu rentres chez toi et puis tu revois ta copine. Non c'est pas possible.
Je vois vraiment des avantages à penser à ça pour ces parties à deux échelles. À l'échelle de ce qui se passe dans la partie, si j'ai envie de mettre un bout de ci, un bout de ça et un bout de ça, ben si j'ai pensé mon temps pour pouvoir le faire et pour me dire bon alors ça en fait c'est en train de commencer à prendre trop de temps, peut-être que ça va m'empêcher de faire la fin que je voudrais, donc peut-être qu'il va falloir que je réussisse à écourter, ben ça fait des bons retours et ça fait des éléments qui peut-être vont faciliter le fait de faire des bons choix pour donner un rythme intéressant. Et puis ensuite il y a à l'échelle de l'arc, à l'échelle de plusieurs sessions de jeu, ça permet déjà de s'engager quand on dit oui je vais jouer cette campagne, combien on a dit 8 sessions, d'accord, 8 sessions c'est parti, je mets ça dans mon calendrier les 15 ans à venir. mais en fait c'est ça qui est terrible, ça peut peut-être être les 15 ans à venir si on a envie d'ajouter un arc,
c'est ça exactement,
mais en fait ça on permet aussi à un joueur de dire bon alors vraiment c'était super mais en fait moi je vais ressortir de ça sans faire patatras, alors qu'est-ce que je vais faire de ce personnage qui était clé dans mes intrigues que j'avais centré sur les personnages pour que ce soit cool, et puis en fait le joueur il est parti, qu'est-ce que je vais devenir quoi. Oui. Et ça sécurise tout le monde.
Oui. Bah, effectivement, moi je trouve qu'il y a plein d'avantages et bon, il y a quelques inconvénients aussi.
Non. Je suis pas d'accord. Il y a pas d'inconvénients à la structure. Ce qu'on met en évidence dans ce podcast, c'est qu'il y a des inconvénients à l'excès de structure.
Oui, c'est ça.
Ce qui n'est pas la même chose.
Ouais, c'est ça.
C'est l'excès qui est inconvénient. La structure en soi n'est pas un problème. Et c'est l'excès ou le manque, tu vois. Mais c'est la structure est nécessaire. Et en fait, à défaut, on structure. Seulement, prendre conscience de comment on structure, ça nous permet encore une fois d'ajouter une gamme à son clavier pour, en tant qu'auteur, en tant que meneur, en tant que joueur, créer des choses supplémentaires. Et en cela, j'ai envie de dire, la personne qui nous dit « soyez attentifs à la structure », il ne nous fait absolument pas de mal. Tant qu'il n'est pas en train de nous dire « de façon excessive. Il faut que ce soit structuré, oui. Et il faut que ce soit structuré comme ça. D'où ma première question tout à l'heure qui était, est-ce que tu penses qu'il existe une structure idéale ? Et oui, si tu m'avais répondu oui, je te serais tombé dessus, mon pote, mais d'une force. Oui. Parce que du coup, dire ça, c'est dire aussi que le jeu de rôle est fini, en fait.
Oui, non.
Il n'y a qu'une manière de faire du jeu de rôle.
C'est pas du tout le cas.
Ouais. Là, mon pote...
Ouais, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire, ouais. De ton propos, de ton intention. De faire une structure en deux parties, en trois parties, en quatre parties. Ouais. Dans les jeux d'enquête, on assiste souvent à des structures en trois parties où...
Ça peut même avoir un sens philosophique.
Oui, oui,
la
oui.
façon, par exemple, si vous réfléchissez en structure ternaire, par exemple, c'est comme les Hegeliens, quoi. Tu vois, c'est...
La copie de philo,
par exemple. La copie de philo, par exemple, qui est en trois parties,
etc. C'est hérité. Oui, non, et je sais pas.
C'est hérité, en fait, du schéma hegelien... la dialectique, effectivement.
Hegelienne. Oui, c'est ça, Hegelienne. La dialectique hegelienne.
Dialectique du maître et de l'esclave, par exemple. Je suis pas un grand spécialiste de Hegel, donc je ne veux pas me faire d'erreur, mais...
Je sais pas si t'as regardé ça, mais en fait, je sais qu'il y a des ressources sur ce sujet, sur PTG, PTB. Et du coup, en fait, des articles...
Sur la structure ?
Des articles américains, en fait, qui ont été traduits par des gens très bien. Et en fait, j'irai
regarder. Hein, du
j'avais lu. Alors, j'ai plus la référence en tête. J'ai essayé de la rechercher pendant le temps du podcast, mais j'arrive pas à retrouver. J'ai un souvenir d'une structure en 3x3 pour raconter une histoire typiquement en 9 sessions qui ferait 3 blocs de 3 sessions
et qui se ferait écho les uns les autres
avec absolument et avec toute l'explication de tout ça, mais j'ai pas été capable là pour l'instant dans le temps de ce podcast de retrouver la référence, mais je sais que ça a été j'avais trouvé ça très intéressant et puis j'avais trouvé ça aussi très fonctionnel, très boîte à outils comme approche. Des fois, en fait, quand on est en train de dire, ça peut être, on peut se dire, ok, c'est bien gentil, faut tout structurer, mais moi déjà, j'ai du mal à raconter des histoires, avoir des personnages intéressants et trouver des situations. Si maintenant, il faut que je mette tout ça sous une équerre, c'est un peu dur, quoi. Ouais. Et en fait, ça montrait bien que c'était pas si dur, et qu'au contraire. Ça aidait en fait, parce que le fait d'avoir un canevas et de se dire bon alors moi je veux faire un truc en temps de scène, et ben ça permet de se dire ah mais finalement cette case là pour l'instant elle est un peu toute pourrie, pour l'instant il n'y a pas grand chose qui s'y passe, et de s'en rendre compte avant d'arriver au moment où on se dit bon bah là cette session de jeu il n'y avait quand même pas grand chose à jouer.
Mmh. C'est très bien que tu cites effectivement des ressources. Peut-être que vous
sur
en avez.
PTG, PTB, si vous tapez structure ternaire, vous tombez sur un long article de Tom. J'ai pas eu le temps de lire son pseudo, trop vite.
C'est peut-être ça, mais je l'ai pas retrouvé. Hein.
Tom, quelque
si
chose.
Si vous avez d'ailleurs d'autres ressources de personnes qui en parlent, moi je sais qu'il y avait Sébastien Delfino qui en parlait aussi dans plusieurs de ses podcasts,
ouais.
Et vraiment sur un plan, on va dire, narratif,
ouais.
Si je me souviens bien. Et c'était vraiment très intéressant. Et il parlait effectivement du Tom découpage.
Pitch. Tom Pitch, ça te dit quelque chose ?
Je ne saurais pas. C'est des choses que j'ai lues il y a quelques années. Et du coup, c'est un peu dur.
D'accord, ok. Parce que là, c'est un article. Alors... Enfin bon, voilà. Mais oui, effectivement, on retrouve ça également dans... Comment s'appelle-t-elle cette émission avec Julien Poire et Sébastien Delfino ?
Oui, c'est ça. Sur les carnets ludographiques.
Carnets ludographiques. C'est merci, ça. Voilà, c'est ça.
Et ouais. Important
de citer... Il y a plusieurs incarnations.
Il y a plusieurs incarnations, comment ça ? Du format du...
Oui,
du
voilà. Enfin, c'est...
Okay. Moi, je connais ça sous le nom des carnets ludographiques.
Donc ça aussi, effectivement, et lui, il aborde ça du point de vue, si je me rappelle bien, de la narration et de la mise en scène, et c'est vraiment très, très intéressant. Je ne sais pas quel autre...
Il y a plein de matériel qu'il amène là-dedans, c'est très intéressant.
Ah ça, oui.
Ensuite, ça peut c'est aussi plein de matériel. Et il peut y avoir aussi ce côté où finalement... t'as tellement de matériel pour penser le jeu ou la session que tu vas écrire que t'es paumé.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ?
Je vois très bien. Et peut-être qu'il y a d'autres ressources sur Internet où on pourrait aller voir. Je sais pas, peut-être sur Casus No, mais après je vois pas.
Moi, je pense que c'est un sujet qui est très 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 large. Je crains fort que étudier ça comme ça d'une façon générale, ce soit un peu. On peut étudier la structure de tel jeu. mais aller faire des grandes propositions sur la structure d'une manière générale, c'est compliqué parce qu'en fait, si tu veux, pour pouvoir faire une telle étude, il faudra avoir joué à tous les jeux de rôle possibles.
Oui, non.
Et quelque après, part,
je parlais juste de pistes en règle générale, ouais. Effectivement. Et pas ouais.
C'est un peu compliqué, enfin, je trouve.
Pour faire une étude scientifique là-dessus, effectivement, ce serait difficile.
Je parle même pas
d'études. Mais par contre, faire des propositions de structures, de choses qui ont marché une fois et qui peuvent être racontées, il doit y en avoir.
Peut-être dans des comptes rendus, ouais, de parties, ouais. Ou des choses de ce genre.
Okay. J'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on fait avec One Shot, en fait, aussi, quelque part. Qu'on révèle des structures de certains jeux. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ouais. Je sais pas s'il y a des ressources, en tout cas. Moi, j'en connais pas.
Mais alors, c'est marrant parce que c'est l'une des. C'est quelque chose que.
C'est presque un garage, ce podcast, en fait.
Ouais, mais j'aime bien. Ouais. Je t'ai vu faire quelque chose de très particulier, c'est de noter le temps où se passaient les choses pendant qu'on était en train de jouer.
C'est ça. Bah
c'est quelque chose que tu fais très particulièrement sur ce jeu, ou c'est une pratique que tu fais.
Non, il fait ça tout le temps.
Que tu fais généralement.
C'est ça, je fais tout le temps.
Je fais ça tout le temps.
Ah oui, en fait, tu as commencé avec
l'anecdote
ça.
L'anecdote que je te racontais au départ.
Sur le retour, ouais, ouais. Absolument.
En fait, je fais ça dès qu'une personne en fait, me demande de playtester son jeu. Dès qu'une personne demande de me playtester son jeu, en fait, je vais commencer à noter ça. Alors, par exemple, à Romaric, je lui ai fait des retours sur. Je lui ai dit, combien de temps tu passes sur ta préparation de personnages ? Je lui ai dit, on a joué 4 heures, on a passé 1 heure à créer les personnages. Bon, alors après, Romaric attendait que j'enchaîne, on va dire, sur un avis, mais en fait, j'en ai pas vraiment. Enfin, c'est juste, je fais un retour par rapport à ça. Est-ce que toi, ça te plaît de passer 1 heure sur la création de personnages ? Après, bon, voilà. Après, tu modules 1 quart d'heure par personnage.
J'ai répondu dans la mesure où les dernières fois où on a joué, Stéphane a joué après toi, à Vadémécom, et je trouve que les personnages, en fait, maintenant, on passe 1 quart d'heure grand max dessus.
Et
encore, on pouvait couper.
Mais après, ça dépend juste à toi, de ton intention. Est-ce que tu veux que ta partie, elle décolle ou au contraire,
Clairement, quand tu m'as montré qu'on avait mis 1 heure à faire les persos, j'ai fait OK, non, c'est trop.
Voilà, j'ai pas un jugement. Quand je fais un retour, j'ai pas forcément tout le temps un jugement de valeur. Après, je sais pas réellement quelle est l'intention de l'auteur. Et donc, c'est pour ça que je lui signale. Je lui dis, là, ta première scène, elle dure 1 heure. La deuxième, elle en dure 2. Comment ça se fait ? Enfin, est-ce que tu veux réellement qu'il y ait ce décalage au niveau du rythme ? Est-ce que c'est voulu ? C'est ça que j'essaye d'amener, en fait, tout simplement, à réfléchir aux personnes à qui je fais un débriefing. Est-ce que c'est voulu que tes scènes, elles fassent pas le même temps.
Ouais, réfléchis à ta structure. Hein.
Si c'est ça, si c'est le cas, si tu me dis oui, tant mieux. Okay. Si tu me dis non, c'est dommage, effectivement, etc., tu vas prendre conscience de ça et tu vas essayer d'harmoniser.
Très bien.
En fait, Stéphane, tu regardes particulièrement quelque chose qui me semble pas souvent regardé.
Non, pas du tout.
Parce qu'on a tendance à s'accrocher à la fiction.
Je suis complètement d'accord.
Et quand la plupart des comptes rendus de partie, en fait, raconte ce qui a été raconté, ouais. mais ne dit pas quel temps a été passé et finalement ne révèle pas la structure, c'est-à-dire que dites-moi si je me trompe et mettez des contre-exemples, ce sera cool, je voudrais dire ça, mais disent voilà, il y a eu une scène qui a duré tant de temps où notre sentiment général a été ça. Et ça en fait c'est réellement quelque chose qui se passe, c'est l'expérience de jeu. Et souvent, en fait, on reste accroché à... Alors, lui, en fait, était le vicomte qui était... Et on se met à raconter des choses...
Si tu savais. Moi, c'est aussi pour ça que je pars en guerre contre ce terme de la fiction.
Oui, absolument.
C'est aussi pour ça que je milite pour qu'on trouve un autre terme. Alors, évidemment, je parle de contenu fictionnel malléable, tout le monde rigole, tout le monde trouve ça un peu nul. Mais voilà, il faut se débarrasser de ce mot la fiction. Parce qu'en fait, une partie de jeu de rôle, ce n'est pas une histoire. C'est une partie de jeu de rôle. C'est-à-dire que c'est des mecs autour d'une table qui bouffent des bonbons en... Voilà. Et donc, du coup, ça doit être timé. La parole doit être répartie. C'est pas...
Oui, justement, en parlant de ça... En parlant de ça,
tout beau.
Le fait d'avoir une structure et de pouvoir gérer son temps en tant que MJ, ça permet aussi une répartition quand même égale entre les joueurs. J'arrive en fait à me rendre compte, en fait, dans une partie de jeu de rôle, à qui parle beaucoup et qui parle pas. Et à ce moment-là, en fait, immédiatement, je fais... Je vais directement interroger la personne qui parle pas, en fait.
Et ouais. Comme moi, par exemple, je pourrais passer la parole à Jérémy si je ne voyais des cernes noires sous ses yeux. Notre Jérémy national.
Je crois que depuis que tu as toussé tout à l'heure, tu t'en as jamais remis.
C'est ça, exactement. C'est Est-ce que tu avais des choses à ajouter ? Est-ce que ça t'évoque des choses, Jérémy, par rapport à la,
non,
à la structure ?
Non, je pense juste en effet que c'est un enjeu très important et que c'est pour ça peut-être que tu dis que c'est un podcast garage. Parce que clairement, ça va être un enjeu, Jérémy. Je pense, dans les 5-10 prochaines années, de dire, bon, il ne faudra pas que penser justement que fiction, il ne faudra pas penser que thème, il ne faudra pas penser que mécanisme. Il y a aussi un aspect important qui est le rythme de la partie.
Et ouais. Et si on veut sortir le jeu de rôle de, soi-disant, sa crise, parce que moi je crois que le jeu de rôle n'est pas du tout en crise en ce moment, qu'il est même plutôt renaissant, mais si on veut aborder le jeu de rôle et faire connaître le jeu de rôle, bah, les vidéos de Maxime Chatham, bah, c'est bien, mais non, en fait, c'est pas bien. Ce qu'il faut faire, c'est faire des bons jeux, et pour faire des bons jeux, il faut réfléchir à sa structure, il faut penser sa structure, il faut justement faire en sorte qu'on soit dans un média rassurant. Rassuré, c'est aussi structuré. Et c'est pour ça que, oui, je pense que c'est un enjeu, effectivement, je suis d'accord avec Jérémy, pour dire que c'est un enjeu capital. Parce que quand on aura un jeu de rôle qui sera structuré, on aura un jeu de rôle rassurant, et donc un jeu de rôle susceptible d'être joué par tout le monde, y compris ma grand-mère. Parce que si les gens jouent facilement au jeu de plateau, il n'y a pas de raison qu'ils ne jouent pas un peu au jeu de rôle aussi.
Ouais, c'est marrant, rassurant sur sa forme, et sur l'engagement qu'on prend, ouais. Et du coup plus libre sur son propos.
Complètement.
Et sur la quantité de choses qu'on peut passer, vivre, expérimenter là-dedans.
Complètement. Mathieu, est-ce que tu as fait le tour de ce que tu voulais nous dire ou est-ce qu'il te reste des choses à aborder dans ton plan ?
Non. Non, moi j'ai dit un peu ce que...
Est-ce qu'on a bien fossoyé ton plan ?
Vous avez plutôt...
Flavie a failli venir. Hein. Ah. Elle a failli venir. Un peu plus, c'était mort le plan. C'était fini. T'en avais plus. Quoi. T'es ruiné.
mais bon, en tout cas, voilà.
Merci Mathieu d'être venu avec ce sujet de podcast ô combien en rapport avec le jeu, donc on rappelle hein, l'horloge du diable que tu produis avec Alexandre. Merci à Stéphane, merci à Jérémy.
Au revoir,
à très bientôt tout le monde. Portez-vous
bonsoir.
Bien et surtout jouez bien.
Oui.
Bonsoir, mais pourquoi
oui,
pas
bonsoir.